Nous avons étudié dans une première conférence les temps d'angoisse et du désert. En ce temps-là, il y aura un temps d'angoisse comme il n'y en a jamais eu. L'angoisse et le désert, ce sont ces lieux dans lesquels les événements d'aujourd'hui nous entraînent, soit d'être de plus en plus prisonniers de l'Égypte et de tout ce qu'elle représente, c'est-à-dire les biens matériels, la sécurité, la paresse, soit de conquérir la terre qu'on avait appelée la terre de Gozen, où rien ne peut nous atteindre. En fait, c'est d'accumuler des grâces et de se loger dans le refuge du cœur du Christ. Et on n'est pas perturbé par les événements. Un peu comme des spectateurs du livre de l'Apocalypse qui vont vivre de l'intérieur ce qui se passe dans les lettres aux sept églises, mais qui vont voir les choses extérieures avec une paix telle que ça ne va pas les atteindre. Dans la seconde, on avait considéré comment on pouvait réagir face à ce qu'on avait appelé une montagne qui fume, c'est-à-dire un événement angoissant. Et on avait vu que quand on avait le cœur pur, les mains innocentes, l'âme qui se garde de l'idolâtrie et la bouche qui évite de dire des faux serments, on était en mesure de savoir quand se mettre en route pour ne pas prendre de risques. En fait, dès qu'on était angoissé, dès que l'angoisse s'arrêtait, on savait que c'était le moment de réagir. Dans la troisième conférence, on a étudié les rouages de l'escalade de la violence que nous voyons de plus en plus, le fait qu'on se dresse les uns contre les autres, royaume contre royaume, nation contre nation, la spirale de la violence. On avait vu que ce qui accélérait cette violence aujourd'hui, c'était le péché, les rumeurs de guerre, qui sont le fait de présenter une vérité en mentant sur les circonstances, d'exagérer des faits, au niveau des médias par exemple, c'est des choses qu'on voit beaucoup. Aujourd'hui, on va aborder un autre signe que le Christ nous évoque, faisant écho à la théologie de l'Ancien Testament, traite du soleil et de la lune. Il est dit dans les discours sur la fin des temps du Christ, à la fin des évangiles, « Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. » Notre Seigneur Jésus évoque le fait que les astres, dans les temps où le Christ s'apprête à revenir, les astres n'arrivent plus progressivement à jouer leur rôle habituel. On va donc étudier même ce que représentent ces deux astres que nous connaissons plutôt bien, que nous côtoyons tous les jours, le soleil et la lune, d'un point de vue biblique. Et on verra qu'un des points les plus importants des signes des temps, d'après moi, est qu'ils représentent les spécificités de l'homme et de la femme et qui vont en notre temps s'estomper. On va avoir du mal à faire la différence entre un homme et une femme aujourd'hui. On verra en fait que l'homme et la femme peuvent tous les deux être ou le soleil ou la lune, mais que l'homme a une capacité peut-être plus grande à représenter le soleil. Il a en lui quelque chose qui est plus proche du soleil, on va dire, et la lune pour la femme. Et c'est vrai que depuis Galilée, on se concentre beaucoup sur le fait que la Terre tourne autour du soleil. Alors c'est vrai que c'est pas Galilée qui a inventé, il a plutôt remis au jour quelque chose qui était connu dans l'Antiquité. Mais il semble que la perspective la plus intéressante, ce soit plutôt la perspective biblique. Le soleil et la lune sont d'abord deux créatures qui ont été créées pour l'humanité. Et donc ce qui va nous intéresser ce soir, c'est le fait qu'on les voit tous les deux tourner autour de nous. En fait, quand on regarde le ciel, on voit ces astres qui dansent. Ils nous éclairent, ils nous réchauffent. Et ils changent d'aspect selon le moment de la journée ou du mois. Et je prendrai souvent les mêmes deux exemples qui me semblent représentatifs concernant le soleil et la lune. Soit en disant que l'homme est le soleil et la femme est la lune, en parlant d'un couple marié bien sûr, enfin un couple tout simplement, l'homme est le soleil et la femme est la lune. Soit en parlant d'un groupe, je vais imaginer en fait un homme qui est à son travail et qui va être sous l'autorité, sous la responsabilité de son responsable au travail, qui va être la lune et son responsable hiérarchique va être le soleil. Voilà les deux exemples que je donne pour montrer des situations toujours avec le soleil et la lune. Et la lune, en fait, enfin, c'est pas n'importe quel membre du groupe, on verra, c'est celui dans le groupe qui adhère à la responsabilité du responsable, qui adhère à son autorité, qui va faire corps, en fait, avec le chef, qui ne va pas être dans une attitude de dissidence. Je vais m'appuyer sur, premièrement, la parole de Dieu éclairée par la tradition de l'Église, deuxièmement, la tradition juive, troisièmement, les observations scientifiques que l'on peut faire sur le Soleil et la Lune, des observations de base, en fait, et quatrièmement, sur des témoignages de personnes qui expliquent la beauté de la différence homme-femme. Et je vais me concentrer plutôt parmi ces gens qui témoignent sur l'homme et la femme, ou alors les responsables et les gens dans son groupe. Je vais m'appuyer sur des personnes qui dégagent quelque chose en lien avec le bonheur, quoi, que ça rend profondément heureux, des gens qui portent beaucoup de fruits dans leur vie, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de témoignages, et une des difficultés, je pense, pour aujourd'hui, c'est qu'on va souvent prendre des témoignages de personnes sans vérifier est-ce que c'est une personne qui est profondément heureuse de se livrer ce témoignage, ou est-ce que c'est une idée qu'elle assène avec colère. Et dans ce cas-là, on ne peut pas forcément dire que les deux témoignages aient la même valeur, en fait. Les parties que nous allons aborder aujourd'hui, donc, c'est premièrement, qui sont le Soleil et la Lune. Deuxièmement, on va faire un zoom sur le Soleil. Troisièmement, sur la Lune. Et quatrièmement, le Soleil et la Lune qui s'obscurcissent, c'est-à-dire le signe des temps qui nous intéresse pour aujourd'hui. Dernière partie sur le fait que il est dit qu'il y a un temps aussi où le Soleil et la Lune doivent briller beaucoup plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'il y a comme un transfert entre ceux qui brillent moins et ceux qui vont briller plus. On va voir comment. Donc, premièrement, qui sont le Soleil et la Lune, deuxièmement, le Soleil, troisièmement, la Lune, quatrièmement, ces deux astres qui s'obscurcissent, et cinquièmement, le fait qu'il y ait un temps où ils soient appelés à briller plus que d'habitude. Toujours dans le Soleil et la Lune qui s'obscurcissent, en fait, pour vous tenir en haleine, je vais m'appuyer sur trois interprétations. Une interprétation qui est l'homme et la femme qui perdent ce qui fait leur spécificité et leur force. Ou alors le chef d'un groupe et les membres du groupe qui sont censés refléter sa lumière. Deuxièmement, le fait de ne plus utiliser la cyclicité du temps comme un allié. Le fait qu'il y ait des journées, des semaines, des mois, des années, il y a des caractéristiques à la fois physique, physiologique et spirituel au temps, qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Ça, c'est, je pense, le Soleil et la Lune qui s'obscurcissent. Et aussi, le fait qu'il va bien y avoir un obscurcissement du Soleil et de la Lune, il va se passer quelque chose, la Lune qui deviendra couleur de sang à un moment donné. Et je le commenterai. Dans Jérémie, il est dit, par exemple, « Ainsi parle le Seigneur qui établit le Soleil comme lumière du jour, la Lune et les étoiles dans leur ordre comme lumière de la nuit, qui remue la mer, et c'est le tumulte des vagues, le Seigneur de l'univers, c'est son nom. » Et dans le psaume 136, « Il est l'auteur des grands luminets, car sa fidélité est pour toujours. Le soleil qui règle les jours, car sa fidélité est pour toujours. La lune et les étoiles qui règlent les nuits, car sa fidélité est pour toujours. » Grand 1, qui sont le soleil et la lune? Petit 1, dans le grand 1, les deux astres créent ensemble. Alors, la tradition juive nous dit que les éléments sont créés deux par deux. C'est fait exprès. Tous les éléments sont nommés par deux pour éviter qu'ils se glorifient d'être seuls. Et c'est le cas pour le soleil et la lune. Ils forment une paire qu'on trouve très souvent ensemble dans la Bible. On les nomme ensemble au moment de leur création. Donc on les met sur un même plan. Quand ils sont nommés, il y a des petites spécificités qui sont soulignées, comme on l'a vu. Et parfois non, c'est simplement pour les nommer. Et les textes qui montrent à quoi nous sommes destinés, par exemple saint Paul, qui nous dit que par le baptême, c'est comme si on avait à la fois les pieds sur la terre, puisqu'on doit respecter chaque autorité instituée, on se couvre la tête devant son chef, c'est ça qu'il dit. Alors lui, il parle de la femme, mais vous voyez, il y a un parallèle toujours entre... et je vais expliquer pourquoi. Et on a la tête au ciel. C'est-à-dire que quand on est baptisé, on rentre dans une alliance particulière qui fait qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, et il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, nous ne sommes qu'un en Jésus-Christ. On est ressuscité avec le Christ. On appartient au peuple saint, c'est le Christ qui est notre tête. À la fois, au départ, il y a une égalité, nous sommes dans le monde, donc à tout moment, on est ou le soleil ou la lune, en fonction de nos situations, et ça peut varier plusieurs fois dans une journée. Ça, c'est parce qu'on est incarné, il y a un ordre, et on est destiné à quelque chose de plus grand qui fait qu'on est tous égaux, et on a déjà par le baptême, un avant-goût de ça, parce qu'on sait que même en respectant, j'irais, un certain ordre dans le monde, on a déjà cette égalité, cette communion qui fait qu'on peut partager spirituellement beaucoup de choses. Alors le soleil, c'est le Seigneur, au départ. C'est de lui que procède toute chose. Le Seigneur, en créant le monde, il a mis en place ses luminaires afin de jouer le même rôle que lui et de créer le monde avec lui. Il y a le soleil, effectivement, qui est le plus remarquable dans le ciel, entre les deux. C'est-à-dire qu'il va avoir, en apparence, la plus grande influence. Et puis la lune, qui a également une influence. Si on compare la lumière, la lune est moins visible que le soleil. Donc c'est toutes les personnes sous la responsabilité du soleil. Et c'est vrai que quand on regarde l'ordre, il y a toujours un responsable en toute chose. Il y a toujours un responsable de service, une seule personne sur les cartes grises, un seul mandataire quand on répond à un appel d'offres. Dans la rue, le soleil, ça va être le gendarme qui est à côté de moi, qui va être le soleil pour moi quand je passe à côté de lui. Dans une classe, ça va être le professeur qui représente le soleil. Dans une paroisse, c'est le curé qui est le soleil. Et si à l'entrée de la messe, il y a une personne qui fait l'accueil quand on rentre dans l'église, au moment où je la croise, c'est elle qui va être le soleil par rapport à moi. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des autorités, et ces autorités même peuvent être très brèves, quoi. Ça va être au moment où, pendant les 20 secondes où je passe devant l'agent de police, il va être le soleil pour moi, quoi. Voilà. C'est pas forcément une autorité forte, comme peut l'évoquer le mot autorité. Et quand on travaille pour un client, c'est mon client qui est le soleil. J'arrête les exemples, je pense que vous avez compris. La lune, c'est la personne, une des personnes du groupe. Tout le monde peut être la lune, mais n'est la lune que ceux qui arrivent à accepter et à faire ce qu'a demandé le soleil, en fait, les règles instituées par le soleil, et qui ont une certaine docilité. Et en fait, en ayant cette docilité, comme on va le voir, à l'action du soleil, elle va elle-même être un canal de grâce qui va influencer le reste du groupe de manière positive. Et le reste du groupe, dans la Bible, il me semble que ça représente la Terre, c'est-à-dire la planète Terre, en fait. Le soleil, c'est ceux qui exercent une responsabilité sur un groupe, ça va être le père de famille, par exemple. La lune, ça va être celui qui exerce une responsabilité moins visible, mais qui est quand même là, et qui va, en fait, refléter le soleil, y compris la nuit, en fait, à des moments où le soleil ne peut pas éclairer. Et tous ceux qui sont dans une certaine inertie, parce que en fait ils vont pas forcément accepter ou refuser ou je sais pas quoi, ils vont représenter la Terre. Ils vont être influencés par le Soleil et la Lune. Petit 2, l'homme et le Soleil et la femme et la Lune. J'arrive au point le plus critique dans un couple. Eh bien, la parole de Dieu nous enseigne que dans un couple humain, dans le cas général, c'est l'homme qui va être le Soleil et la femme qui est la Lune. C'est en fait dans le cas général, parce qu'effectivement il y a des petites il y a des subtilités, c'est à dire que par exemple quelqu'un qui exerce une tâche, par exemple quelqu'un fait la cuisine, que ce soit l'homme ou la femme, à ce moment précis où elle prépare le repas ou il prépare le repas, ça va être comme si la personne devenait le soleil dans cette tâche. Et c'est important que si son mari arrive, même si c'est lui qui d'habitude est le soleil, il respecte le fait que sa femme a pris en charge ce chantier-là. Et donc, s'il veut faire des choses, c'est plutôt à lui de dire « Chérie, est-ce que je peux t'aider ?» plutôt que de faire des choses sans lui demander, avec le risque de ne pas faire comme le soleil aurait voulu. Je dirais que dans le couple humain, la limite qu'on peut mettre au fait que c'est plutôt l'homme le soleil, c'est quand il y a des tâches particulières dans lesquelles l'autre se dit « Tiens, est-ce que je peux aider ?» Voilà. Normalement, il y a une demande à formuler pour éviter de braquer le soleil. On y reviendra plus tard. Alors, je vais essayer d'expliciter cela, et je vais vous demander de mettre de côté au moins le temps de la conférence, l'agacement éventuel que l'affirmation « l'homme et le soleil » dans un couple peut susciter. C'est vrai qu'on est dans une civilisation où on est beaucoup dans la comparaison, et dès qu'on se sent lésé, ça déclenche une irritation. Alors que c'est vrai que revenir au fondement, expliquer la beauté d'une répartition des rôles entre hommes et femmes, ça peut être un chemin de vie, une manière de redécouvrir la puissance de feu que nous avons en nous. Je vais donner un exemple. Moïse et Aaron, qui sont les deux personnes par qui Dieu est passé pour sortir le peuple hébreu d'Égypte, ont des rôles de soleil et de lune. On voit Moïse qui discute avec le Seigneur quand, dans le buisson ardent, Dieu lui dit « Va libérer mon peuple ». Et Moïse présente devant le Seigneur son incapacité à plusieurs reprises. Et en lisant ce texte, moi je pensais à... C'est comme si c'était un troisième récit de la création, comme on trouve dans la Genèse. Parce que c'est comme si il était démontré que une personne toute seule n'y arrive pas, on a besoin d'être deux, et que les qualités soient réparties entre deux personnes qui n'ont pas les mêmes qualités. Et Dieu dit, puisque tu discutes avec moi et que tu n'arrêtes pas de me présenter des éléments négatifs qui me montrent ton découragement, je vais demander qu'à Aaron vienne t'aider. Il dit, Aaron, Moïse sera ton Dieu, et Moïse, Aaron sera ta bouche. C'est-à-dire que, en fait, la lune, elle est censée faire comme si, devant le soleil, le soleil était son dieu. J'essaie de ne pas discuter, d'être respectueux, de ne pas ridiculiser le soleil. Et le soleil, devant la lune, en fait, la lune, elle a un éclat qui est plus doux et plus prompt à toucher des personnes que la force ne va pas toucher. Et il y a un certain nombre de situations dans lesquelles vouloir régler les choses par la force ou quand on est mis en difficulté, quelqu'un qui est le soleil et qui va devoir traiter un sujet qui l'énerve au plus haut point, logiquement, c'est un signe qu'il est censé s'appuyer sur la lune. Des gens de son groupe qui vont avoir une capacité plus grande, bien plus grande que lui, à déverrouiller des problèmes sociaux dans une entreprise ou auprès de certains enfants. Voilà, il y a toujours ce double mouvement. La lune, elle va laisser faire au soleil pour des décisions. On va dire, maintenant c'est comme ça et pas autrement. On verra ensuite que, évidemment, normalement le soleil il n'est pas censé prendre les décisions tout seul. Et le soleil, il est censé, quand il voit qu'il est sur un sujet qui risque de le mettre en difficulté, laisser la lune faire avec son éclat plus doux et sa manière de s'adapter aux personnes. Puisque le soleil va incarner plutôt une constance et la lune va incarner plutôt un changement. Une adaptation permanente, un changement dans la journée, enfin dans le temps, mais aussi une adaptation permanente aux gens qu'il y a autour d'elle. Donc c'est pour ça que je parle de l'homme et de la femme, mais aussi du cas lambda d'un salarié dans un groupe qui représente la lune par rapport à son chef ou à sa chef qui est le soleil. Petit 3. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. C'est une expression de saint Paul. Est-ce que vous savez que le soleil est 400 fois plus grand que la lune, mais il est aussi 400 fois plus loin de la Terre que la lune. Donc ça veut dire que depuis la Terre, nous voyons le soleil et la lune de la même taille. Alors, on est tenté de dire aujourd'hui ils sont de la même taille, donc ils sont pareils, ils sont identiques. Mais on peut remarquer que le soleil, comme on l'a dit, c'est celui qui brille, et la lune, elle donne un éclat. C'est pas une lumière qui aveugle. C'est en fait l'éclat, c'est plutôt quelque chose qui va guider, c'est-à-dire qui va apporter un éclairage suffisant aux personnes pour les aider à se repérer, mais l'éclat va être presque imperceptible en fait. C'est-à-dire que ça va être une influence cachée. Alors, on va commencer par le soleil. Que voit-on quand on s'intéresse à la lumière éblouissante du soleil? Sans doute que le soleil tient sa lumière de Dieu. Quand il brille, c'est comme s'il cherchait à nous démontrer la grandeur de Dieu. Je brille à fond toute la journée. Et la lune aussi brille, mais la lune, elle reçoit sa lumière du soleil. Il y a une tradition juive qui nous raconte une histoire. Dieu fit les grands luminaires, les deux grands luminaires. C'est le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 16. On est le quatrième jour de la création. Genèse 1, 16. Et le plus grand luminaire et le plus petit luminaire, c'est que la lune dit au saint béni soit-il. Souverain du monde, est-il possible à deux rois de porter la même couronne? Il lui répond, fais donc toi plus petite. La lune demande à Dieu, souverain du monde, reprit la lune, je viens de te faire une remarque sensée, est-ce une raison pour que je me réduise? Dieu lui répond, fais-le. Et tu régneras non seulement sur le jour, mais aussi sur la nuit. Où est l'avantage ? Demande la lune. À quoi bon peut bien servir une lampe en plein jour ? Obéis, et grâce à toi, Israël pourra compter les jours et les années. Mais il est impossible de déterminer le cycle des saisons sans le concours du soleil, puisqu'il est dit que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années. Obéis, et le nom des justes évoquera le tien. Comme Dieu constatait que la lune n'était toujours pas satisfaite, le saint béni soit-il ordonna « Présentez un sacrifice expiatoire de ma part parce que j'ai réduit la dimension de la lune. » Alors, je vais revenir sur cette méditation de la tradition juive en dégageant 7 observations. La première, c'est que d'emblée, la lune semble plus douée d'observation que le soleil. C'est-à-dire que elle se dit tout de suite, mais on ne peut pas avoir deux personnes qui soient strictement à la même place. Il va y avoir un problème à un moment donné. Deuxième observation, même si elle brille moins que le soleil, elle a quand même la capacité à prendre de la place, comme le soleil prend beaucoup de place. Mais le Seigneur va l'encourager à se mettre en second plan pour avoir une vraie fécondité. C'est une chose qui est valable pour une femme dans un couple, mais aussi le membre d'un groupe. C'est-à-dire que quand on s'efface, il va y avoir en fait un effet de levier progressif, c'est-à-dire qu'on ne va pas se faire remarquer pendant un moment, et à un moment, quand ça va être à nous d'intervenir dans une situation où les gens, en fait, on va les prendre de court. Il va y avoir une force cachée, puisqu'on va, on va cacher ce qui fait notre force. Quand, en fait, on se réduit, c'est-à-dire on laisse l'autre au premier plan. On dit, bah, après tout, c'est à lui de briller, qu'il le fasse. Moi, pour l'instant, je fais mon boulot, mais je ne... voilà. Troisièmement, le Seigneur dit à la lune qu'en se réduisant, elle régnera aussi sur la nuit. C'est-à-dire qu'elle sera un canal de grâce aussi pour le moment où son mari ou son responsable ne sera pas là. Et la nuit, c'est aussi les moments de détresse, les moments de découragement. C'est-à-dire qu'il va y avoir un effet de cette personne qui se met au second plan, qui acquiert une compétence pour les moments où les autres sont dans une situation difficile. Quatrièmement, la lune demande à quoi bon peut servir une lampe en plein jour. À quoi sert à la lune de briller en même temps que le soleil, puisque sa lumière à elle semble dérisoire en journée? On va tenter de répondre à cette question sur l'utilité de la clarté de la lune en plein jour. Il y a des choses à dire, en fait. Et c'est pas répondu là dans ce texte-là. Cinquième observation. Le saint, béni soit-il, lui révèle qu'elle a un rôle à jouer pour que le peuple de Dieu, aujourd'hui ça va être les juifs et les chrétiens, le peuple de Dieu compte le temps. Et Dieu précise que pour se repérer dans le temps, il faut à la fois le soleil et la lune. Et on a besoin des deux, c'est-à-dire de maîtriser le rôle de soleil qu'on peut jouer quand on est responsable dans une situation donnée, et le rôle de la lune, c'est-à-dire, attention, c'est pas moi le soleil, il y a un certain nombre de codes à respecter, et quand je les respecte, je vais avoir une capacité à compter le temps. J'en reparlerai. Donc compter le temps dans le sens avoir une fécondité spirituelle très grande. Sixième observation, Dieu lui dit, alors on voit que la lune elle a insisté, c'est-à-dire qu'elle a ses interrogations en fait, le fait qu'elle sente qu'il y a quelque chose à creuser, elle a pris le temps d'insister. Et Dieu en fait à chaque fois qu'elle reparle, Dieu va lui donner une grâce supplémentaire. Ça c'est intéressant ce côté... demandez, vous recevrez, en fait, le fait que la lune, enfin, la femme, qui est le modèle de la lune, je dirais encore plus parfait qu'un membre dans un groupe, elle va avoir tendance à extérioriser quelque chose, et en fait, il y a une utilité qui est montrée là, et que je trouve mise en scène de manière belle, c'est que Dieu, en fait, à chaque fois que quelqu'un crie vers lui en disant, mais pourquoi ça, explique-moi, etc., Dieu, il va répondre, en fait, il va donner des grâces à chaque fois. C'est intéressant. Septième observation, le nom des justes va évoquer celui de la lune. C'est-à-dire que lorsque la lune se réduit, elle va laisser la première place au soleil. Donc en faisant ça, en fait, elle va donner de la force au soleil. C'est-à-dire que c'est comme si elle allait peser dans la balance avec le soleil pour le soutenir. Et le nom que le responsable va recevoir de Dieu, ça va être sa mission céleste, ça va être sa récompense, ça va être tout objectif que le soleil va réussir à atteindre. Eh bien, Dieu a promis à la lune que cette récompense du soleil allait être puisée dans le trésor de la lune. C'est-à-dire que il y aura des traces dans la récompense donnée au soleil par Dieu du fait qu'il y a une partie qui vient de la lune. Un peu comme si un responsable dans une entreprise dit « j'ai une super idée, voilà ». Si elle est mise en œuvre et que tout le monde l'applaudit, il y a un moment ou l'autre, ça va se savoir que cette super idée, elle est due à une personne qui lui avait soufflé. C'est forcément, en fait. Dieu va faire en sorte que soit mis en lumière le rôle qu'a joué la personne qui n'a pas cherché à être au premier plan dans un premier temps. Le soleil ne pourra pas cacher ad vitam aeternam. C'est-à-dire que c'est comme s'il allait avoir une couronne sur le front et sur la couronne, il y avait marqué lune. Je pense à la petite Thérèse, par exemple, elle est devenue docteur de l'Église. C'est pas rien, en fait, elle a été dans son Carmel à faire ses petites tâches quotidiennes, elle a écrit un petit peu, etc. Et en fait, il y a un pape qui a dit, bah, désormais, ses écrits vont être une référence quasiment équivalent avec la Bible. Enfin, le docteur de l'Église, ça veut dire quasiment ça, quoi. C'est-à-dire que on voit déjà, j'anticipe un peu sur la dernière partie, mais que la lumière à la lune devient comme celle du soleil. On voit que le moment où la lune est récompensée, cet astre va se mettre à briller d'une manière anormale et va éblouir tout le monde, en fait. Alors qu'au départ, c'était la lune. Et huitième remarque, parce qu'en fait, j'en avais une huitième. Lorsque le peuple de Dieu implore le pardon du Seigneur, Dieu a promis, comme un impôt, une taxe prise automatiquement sur les demandes de pardon. Quand on dit qu'il rit à la messe, quand quelqu'un demande pardon, eh bien, c'est quelque chose qui est pris et donné à la lune pour aider les femmes ou des personnes qui s'humilient en étant la lune, en disant « je vais être la lune », pour les dédommager, en fait, pour peut-être soigner leur cœur qui accumule une forme d'injustice, parce que régulièrement, on s'humilie, mais il n'y a pas forcément de... Je pense au Christ, par exemple, qui, quand quelqu'un lui dit à mon frère de partager l'héritage avec moi, il lui dit « suis-je donc un juge entre vous ?» En somme, il lui dit « sois la lune », c'est-à-dire « accepte que l'autre y soit le soleil, et qu'il te lèse momentanément, et qu'en fait, en offrant le fait que tu ne vas pas réclamer autant que ce que tu aurais voulu, il y a un renversement à un moment, et il y a une guérison peut-être dans votre famille, il y a quelque chose qui se passe. » La lune est douée d'une grande observation. Quand elle se met au second plan, elle a une grande source de fécondité, notamment de régner sur la nuit, ce qui représente la nuit. La lune brille aussi en plein jour, on peut se demander pourquoi. La lune a une utilité comme le soleil pour compter le temps et donner une fécondité à tous ceux qui appliquent les règles du soleil et de la lune, comme on le verra. La lune a une capacité, quand elle parle, pour demander et interroger, sans être dans la critique bien sûr, à recevoir des grâces du Seigneur, parce qu'elle va susciter, elle va évoquer des sujets. Il y a des moments où la lumière de la lune devient comme celle du soleil, c'est-à-dire que lorsque le soleil est récompensé, la lune aussi reçoit forcément une récompense. Et il y a une grâce particulière qui est donnée à la lune en dédommagement par le Seigneur à chaque fois que dans le peuple de Dieu on se réunit pour demander pardon. Petit 4. J'arrive au point « La lune honore le soleil ». Alors, que ce soit de jour ou de nuit, je regarde la lune, qu'est-ce que je peux voir ? Je vois la lumière du soleil qui se répercute sur cet astre, et la lune, par sa beauté, nous renvoie vers la clarté du soleil. Saint Paul a cette phrase déconcertante. Je veux pourtant que vous sachiez ceci, le chef de tout homme c'est le Christ, le chef de la femme c'est l'homme, le chef du Christ c'est Dieu. Et on est tenté de dire, aujourd'hui, c'était comme ça à l'époque, mais ce verset n'est plus d'actualité, et pourtant il semble bien qu'il y ait un véritable mystère, comme une explication d'un canal de lumière amoureuse qui va de Dieu vers les hommes en passant par différentes personnes qui vont répercuter la lumière, en fait. Et je vais appeler cette règle la première règle du soleil et de la lune. La première règle du soleil et de la lune, c'est « Femme, soyez soumise à vos maris » ou c'est « Lune, réduis-toi pour laisser le soleil briller plus que toi ». C'est-à-dire que tu peux exercer ta force toi aussi, mais je dirais que dans le domaine de la force, laisse faire le soleil, tu verras que tu auras d'autres compétences cachées qui vont faire que ça sera peut-être même toi, d'ailleurs bien souvent ça sera toi la lune, qui aura le dessus sur le soleil, au final en fait. C'est comme le lièvre et la tortue, excusez-moi de dire ça, mais on verra que la lune va un peu moins vite que le soleil dans le ciel, et bien c'est la tortue qui gagne par sa constance et par son... parce qu'elle est maligne en fait. On verra qu'il y a la seconde règle, hein, bien sûr, du soleil et de la lune. Je prends un exemple, dans le livre de Josué. Or, tandis que Josué était près de Jéricho, Et il leva les yeux et regarda. Voici qu'un homme se tenait en face de lui, son épée dégainée à la main. Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos adversaires ?»« Non, dit-il, je suis le chef de l'armée du Seigneur, maintenant je viens. » Alors Josué se jeta face contre terre, il se prosterna et il dit, « Que dit mon Seigneur à son serviteur ?» Le chef de l'armée du Seigneur dit à Josué, « Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est saint. » Ainsi fit Josué. Et on voit là que l'ange du Seigneur, lorsqu'il reçoit un compliment, donc Josué voit l'ange du Seigneur qui dit, « Maintenant je vais être le chef de ton armée, je me montre à toi pour que tu aies confiance dans le fait de faire des, de remporter des victoires pour le Seigneur. » L'ange du Seigneur, lorsqu'il reçoit un compliment, Josué se prosterne devant lui, il va renvoyer immédiatement l'attention vers le Seigneur en disant, en retire tes sandales, il va parler de la sainteté du lieu. C'était une manière de dire Dieu est saint. Voilà, on lui fait un compliment, il renvoie la lumière directement sur le soleil en fait. On voit que cet ange joue le rôle de la lune en fait. Il va dire, on me fait un compliment. C'est le soleil que je montre, moi je ne suis qu'un serviteur inutile ou quelconque. Et l'ange, quand on va aller trop loin dans le culte d'adoration, quand il y a, par exemple Saint Jean va se prosterner devant l'ange dans l'Apocalypse, il va dire attention, c'est Dieu que tu dois adorer. La lune, ou même le soleil, que nous sommes tous, les compliments, ça doit toujours se traduire par, je trouve, une manière de ne pas faire en sorte que le compliment s'arrête à moi, mais qu'il aille sur d'autres personnes ou sur Dieu directement. Et que s'il y a trop d'admiration pour moi, de dire attention, c'est pas moi, c'est Dieu, comme fait l'ange, ne te prosterne pas devant moi. Et c'est vrai que Dieu aime qu'on ne soit pas tout le temps à dire Dieu est bon, mais que aussi on dise « mon mari est extraordinaire » ou « mon chef est extraordinaire ». Quand on nous fait un compliment, en fait, il y a une grâce particulière à honorer le soleil, la personne qui est le soleil par rapport à nous, en fait. De trouver un truc qui va renvoyer sur le soleil. Alors, moi, j'avais la pensée d'une femme à qui on dirait « tu nous régales avec ce gâteau » et la femme, elle peut dire ben, « mon mari avait acheté des pommes, alors ça m'a donné l'idée de faire le gâteau ». Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne dit pas c'est pas moi qui fais le gâteau, elle va donner un petit truc pour envoyer sur le mari. Et par exemple, si je prends l'exemple du salarié dans l'entreprise, qui a le rôle de la lune, on lui fait un compliment parce qu'il travaille vite, par exemple, et il va dire j'ai eu un bon pédagogue, par exemple. C'est mon chef qui m'a formé, ou alors j'ai été aidé par d'autres personnes. C'est une manière aussi de renvoyer sur d'autres membres du groupe pour que la lumière en fait se promène et qu'elle éclaire d'autres personnes. Petit 5, le soleil honore le Christ. On va voir par exemple quand des enfants complimentent leur père sur un bricolage qu'ils viennent réaliser dans la maison. Que peut répondre le père qui représente le soleil ? Il peut dire par exemple « Dieu m'a donné ce talent ». C'est-à-dire que le soleil, c'est pareil, sa lumière, elle vient de Dieu. Imaginons une conférencière maintenant qui termine sa conférence et reçoit des applaudissements. Elle peut se dire deux choses. Elle peut se dire premièrement, par rapport au responsable de la salle, je suis la lune. Donc si on est dans une salle du diocèse, elle peut adresser un compliment à l'évêque ou au curé. Merci de nous avoir reçus. C'est une manière en fait de renvoyer la lumière. Et puis si elle se dit je représente le soleil, alors elle peut dans un milieu chrétien dire remercier plutôt le Seigneur. Ou sinon si elle n'est pas dans un milieu chrétien, elle peut dire par exemple j'ai de la chance de pouvoir faire ça ici. Ou je tiens à remercier les accessoiristes, etc. Vous voyez, donc en fait... parfois le rôle entre le soleil et la lune est un peu ténu, c'est pas si marqué que ça, mais c'est une habitude à prendre de trouver de la lumière à renvoyer sur quelqu'un d'autre. Petit 6, le Christ est Dieu. Le Christ est Dieu d'un autre côté. Alors, par rapport à Dieu, le Père, le Christ joue le rôle de la lune. Par exemple, quand on dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Que répond Jésus ? Il dit, pourquoi m'interroges-tu sur le bon ? Unique est celui qui est bon. Si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Jésus, sur un sujet qui touche de près à la divinité, qui est le domaine de la bonté, il va commencer par répondre en renvoyant vers le Père, alors qu'il est Dieu lui-même. C'est assez paradoxal, cette réponse. C'est-à-dire que la question posée pour lui concerne d'abord le Père, dont je dépends, et ensuite... je vais apporter un complément de réponse, si tu veux être parfait, garde les commandements, etc., vends tout ce que tu as, il va donner ce type de réponse. De la même manière, quand il aborde la question de l'avènement du Fils de l'homme, il dit « Mais ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges de Dieu, ni le Fils, sinon le Père et lui seul. Et alors, il y a plusieurs manières d'interpréter ce passage, mais moi, il me semble que la manière la plus juste, parce que Jésus est quand même Dieu, et ça paraît étrange qu'en Dieu, il y ait un problème de connaissance, puisque Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, etc. Alors, en fait, comme en Dieu, il y a un mouvement d'amour infini, et que Jésus est la lune par rapport au Père, et bien en fait, il va, dans ce mouvement d'amour, lui laisser le choix de décider du jour et de l'heure. C'est le choix pour le Père d'être tellement miséricordieux que ce sera le moment où il y aura le plus d'âmes qui seront sauvées, ce moment précis où le Fils de l'homme doit revenir. Un peu comme une mère qui dirait à ses enfants « Non, je ne sais pas à quel moment va déboucher cette bouteille d'Orangina, seul votre Père le sait. » En fait, c'est elle qui l'a acheté, c'est elle qui a rappelé au papa qu'il y avait un anniversaire, c'est elle qui a dit « Chérie, est-ce que ça te va si on le fait mardi soir parce que les autres soirs ils vont être fatigués ?» Enfin, elle connaît. C'est elle qui a tout porté en fait. Mais elle joue un jeu comme le joueraient les personnages de la Bible, parce que elle se dit que le papette, comme il va recevoir la grâce au moment de prendre la décision, elle se dit ben si je dis ça, déjà je vais évangéliser mes enfants, et deuxièmement l'homme il va peut-être recevoir une petite grâce pour au dernier moment dire il vaut mieux à tel moment ou tel moment, enfin il va recevoir la grâce pour une décision, voilà, sauf s'il dit à son épouse je te laisse, enfin même si c'est insignifiant de déboucher la bouteille d'Orangina, mais je donne cet exemple parce que du coup, ça, même sur des choses insignifiantes, en fait, on peut faire de l'évangélisation active. En fait, c'est une manière de répercuter une lumière très grande sur les gens qui dépendent de nous, quoi, de fonctionner comme ça. Petit 7. Les cycles du soleil et de la lune. Alors, je vais considérer plusieurs cycles, 4 cycles en fait, le cycle journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel. Savez-vous combien de temps mettent le soleil et la lune, en moyenne, pour qu'on les voit faire un tour dans le ciel d'une journée à l'autre? Combien de temps, la culture G? Pour le soleil, il met en moyenne 23h56 minutes. C'est-à-dire qu'il fait un petit peu plus d'un tour chaque jour. Il avance un peu plus vite, quoi, dans son empressement à jouer son rôle de soleil, à éclairer, à être fort, à être victorieux dans tout ce qui... Vous savez, dans la Bible, c'est dit, le soleil, il s'élance en conquérant joyeux, quoi. Il reçoit une mission et il est le soleil, quoi. La lune émet 24 heures et 52 minutes. De là, on va déduire que chaque jour, la lune, par rapport au soleil, va tarder un petit peu plus, elle va prendre son temps, et que par rapport au soleil, elle va se décaler d'une heure. Chaque jour, si vous voyez la lune, le jour suivant, elle va se lever une heure après, ou elle va se coucher une heure après aussi, à peu près. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme s'il y avait un petit décalage de 1/28e. Si on découpait les 365 degrés autour de nous en 28 segments, et ben chaque jour, il y a à peu près 1/28e où la Lune tarde un petit peu plus. Et ce qui fait qu'effectivement, à peu près 28 jours, et ben elle va revenir à la même position, à peu près au même angle dans le ciel. D'accord ? C'est le mois. C'est parce qu'en fait, chaque jour, il y a à peu près un angle d'à peu près 1/28e qui, c'est-à-dire à peu près 13 degrés. Et à chaque fois, chaque jour, elle change un petit peu son axe d'éclairement par rapport au soleil. C'est-à-dire que vous avez la Terre, le soleil et la Lune qui peuvent être alignés ou alors qui forment un angle. En résumé, chaque jour, le soleil et la Lune, si on doit résumer, font à peu près un tour autour de la Terre. Vu depuis la Terre. Donc ils ont un mouvement relativement synchronisé, ces deux astres qui sont vraiment faits l'un pour l'autre. Pour exercer une mission commune sur la Terre. Dans la Bible, on parle de la journée qui commence à 18h. Et ça, c'est une porte du temps. J'en ai parlé un tout petit peu. Je vais vous en reparler. C'est un peu avant 18h de dire « Seigneur, je t'offre ma journée ». Et quand on fait ça, on prend la porte. C'est-à-dire qu'on va occuper, on va dire ce qu'on veut qu'il se passe sur les 24 heures qui suivent. Seigneur, je t'offre ma journée. Seigneur, je proclame ta victoire sur la journée qui vient, sur tel ou tel problème. Et le soleil et la lune peuvent être nommés comme des auxiliaires qui vont exercer une influence bénéfique sur nous. Le soleil pour nous guérir et nous fortifier. Et la lune pour nous consoler et veiller sur notre sommeil. C'est-à-dire qu'on connaît aujourd'hui, par exemple, la vertu d'un chien de berger qui est bien dressé. On lui donne un ordre très précis et il va rassembler le troupeau, on va éviter de se fatiguer. Et aujourd'hui, on est devenu tellement cartésien qu'on n'ordonne plus le soleil et la lune. Ça paraît grossier ou rocambolesque ou alors superstitieux. Alors qu'en fait, le Soleil et la Lune sont des astres qui ont une influence très grande sur nous. Le Soleil, on a dit, donc pour guérir et fortifier. On le voit parce que quand en fait, on prend le Soleil de manière raisonnable, notre corps va avoir de la vitamine D, il va sécréter des hormones qui vont nous aider, et on va se sentir mieux, en fait. On va lutter contre la déprime, et ça va nous aider aussi, peut-être, à guérir de certaines choses, parce qu'on va recevoir de la force. La Lune, elle va nous consoler et nous aider au niveau du sommeil, pour avoir un sommeil bien réglé, et pour avoir, je dirais, une constitution harmonieuse, au niveau corps, âme, esprit. On en reparlera plus tard. La maîtrise de la journée, ça veut dire un peu avant 18h, grosso modo. Ça peut être entre 17 et 18, ou ça peut être à 18h moins 2, ou à moins 10, selon le temps qu'on veut y passer. Ou alors en union de prière, simplement en ayant une petite pensée, si on est au travail, de dire « Seigneur, je t'offre ma journée. Et toi, le soleil, je te demande de jouer ton rôle sur nous, et de nous éclairer, de nous guérir, au nom de Jésus. Et toi, la lune, de jouer ton rôle sur nous, pendant la nuit, dans le nom de Jésus, de... puisqu'il a repris autorité sur toute chose, de nous aider à ce que, durant la nuit, nous ayons une nuit paisible. Et pendant la journée, donc l'homme et la femme, qui sont le soleil et la lune, ou un responsable et les gens de son groupe, chaque jour, en fait, ils vont recevoir des missions, des petites missions, pour transformer le monde, c'est-à-dire les gens qu'ils ont sous leur responsabilité. Et ils vont œuvrer en fait à des moments, ils vont œuvrer à des moments différents, le soleil et la lune. Il y a des moments où ils vont être ensemble, quand ils sont synchronisés, ils sont tous les deux sur la journée. Puis des moments où ils vont être décalés, la lune ne va pas forcément se lever au même moment, et des moments où ils vont être opposés. Donc on peut imaginer un homme, soit un homme et une femme dans un couple, soit un responsable et un des membres de son groupe qui va être la lune, qui vont peut-être être présents à des moments différents. Et s'ils sont unis, ils vont avoir une action très forte. En fait, ça va être un levier extrêmement fort que le Seigneur a voulu et qui est bon. Voilà, il y a cette danse du soleil et de la lune. Deuxième élément dans ce petit set, le cycle hebdomadaire. Le cycle hebdomadaire, en fait, c'est une reproduction de ce qu'a fait le Seigneur en créant le monde en 7 jours. Donc, grosso modo, il y a eu 7 rotations de soleil et de lune autour de la Terre en une semaine. Et pour nous, la porte de la semaine, ça va être le samedi soir. Le samedi soir vers 18h, Seigneur, je te remercie pour... alors, en fait, déjà, il y a le vendredi soir. Le vendredi soir, c'est Seigneur, je te remercie pour cette semaine écoulée. Et comme le samedi, c'est un jour particulier dans la Bible qui correspond à un jour plutôt de repos, bah, Seigneur, viens nous faire profiter de toutes les grâces de cette semaine. Ça, c'est le vendredi soir. Et le samedi soir, ça va être, on a profité de la semaine et du jour où on était plutôt dans une position intérieure de détente. Et ben Seigneur, je t'offre la semaine qui vient et je proclame que ça va être une semaine fructueuse. Voilà, c'est une manière simple, si on le fait en abrégé. Mais après, on peut prendre des psaumes, des prières, des chants, ou aller à la messe à ce moment-là. Enfin, il y a plein de, voilà. Troisième cycle, le cycle mensuel. On a dit que la Lune se décalait un petit peu chaque jour. Et chaque mois, elle va passer par 2 quadratures, c'est-à-dire des moments où elle va former un angle perpendiculaire. Si on prend Soleil, Terre, Lune, ça fait un angle à 90 à peu près. Et elle va avoir l'aspect du premier quartier, c'est-à-dire elle va être divisée en 2 avec une partie éclairée et une partie non éclairée. Et elle va passer aussi chaque mois par 2 alignements avec la Terre ou le Soleil. Soit du même côté que le Soleil, par rapport à la Terre, c'est la nouvelle Lune, soit en opposition, c'est-à-dire que vous avez Soleil, Terre, Lune, et là ça va être la pleine Lune, il va y avoir un éclairage en plein feu. Alors, dans la tradition juive, on honore la nouvelle Lune, qui est un moment de fête. C'est vrai que ça, on n'y pense pas. Le moment de la nouvelle Lune, c'est la Néoménie, c'est un moment où on se tourne vers Dieu, on fait la fête, on essaie de pas être dans un, de pas travailler ou de réduire son rythme, parce que c'est un moment où on va recevoir des grâces prophétiques pour le mois qui vient. Parce que la tradition juive dit que le temps mensuel marqué par la lune, c'est la mesure du temps prophétique. Concrètement, ça va être un peu avant la nouvelle lune, c'est-à-dire une ou deux journées avant, le soir, de prendre un moment de prière. Et aussi, une ou deux journées après, de prendre un moment de prière où on va dire « Seigneur, je te consacre le mois qui vient. » Et Seigneur, je veux que tu sois vainqueur dans le mois qui vient, que telle et telle difficulté s'en aille par ta grâce, par ta puissance. On peut nommer les grâces du Christ, c'est ce qui est le plus sûr en général, le sang du Christ, l'intercession de saints qui vont nous éclairer pendant ce mois. C'est un moment en fait où le Seigneur va nous, quand on le fait, va nous éclairer et nous montrer certaines choses à l'avance, au niveau de notre intuition ou de nos rêves, ou des gens qui vont nous dire des choses et ça va nous éclairer. Ça va nous donner des indications, en fait. Voilà. C'est connu dans le monde de la sorcellerie, en fait. Les sorciers, ils utilisent la nouvelle lune pour prier de manière négative, pour maudire, etc., pour blasphémer, pour prédire certaines choses de l'avenir. Et en fait, moi, il me semble que, au départ, c'est quand même une chose bonne. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des cycles comme ça, avec le soleil et la lune, et qu'il y ait besoin à la fois des rotations du soleil, à la fois des rotations de la lune, et à la fois des cycles respectifs de l'un et de l'autre pris ensemble pour qu'on utilise ça pour recevoir des grâces. L'autre cycle dans ce petit set, c'est le cycle annuel. C'est le soleil en fait qui va, du fait de l'inclinaison, son inclinaison par rapport à l'axe de rotation de la Terre, qui va parcourir une phase ascendante de décembre à juin et descendante de juin à décembre. Alors, c'est vrai que ça dépend aussi où on est par rapport à l'équateur, mais grosso modo, c'est ça qui se passe. Et les solstices et les équinoxes sont là pour marquer ces quatre temps de l'année. Il est dit dans Luc 4, 19, « L'Esprit du Seigneur m'a oint pour proclamer une année de grâce. » Voilà, c'est-à-dire que moi, je pense que Jésus, il a dû donner cette parole-là à un moment. À mon avis, ça devait être en mars, lors de l'équinoxe de printemps. Parce que c'est vraiment le moment du lancement de l'année. Donc on est aux alentours du 20 au 21 mars. Et on a les quatre temps où on va, c'est pareil, quelques jours avant, quelques jours après, le soir, dire « Seigneur, je t'offre ce trimestre qui vient. » Alors si c'est le 21 mars, c'est aussi l'année qui vient. Et je proclame que tu vas... Alors en fait, il faut penser à la saison qui vient et quels sont les points positifs et les points négatifs. Si c'est par exemple en mars... Ça va être le printemps. Seigneur, tu vas bénir mon jardin, tu vas nous donner l'eau, tu vas bénir mon travail, tu vas bénir nos projets, tu vas nous faire sortir de l'hiver, tu vas nous faire sortir de la torpeur dans laquelle nous étions un peu en hiver parce que l'hiver c'est plus difficile. Voilà, et ces quatre temps sont des temps vraiment qui vont nous permettre d'avoir beaucoup de grâce pendant l'année ou le trimestre qui vient. Petit 8, l'influence du soleil et de la lune. Alors, le Soleil et la Lune ont tous deux un mouvement qui, depuis la Terre, exerce une influence gravitationnelle, une influence sur les marées, puisqu'on a à peu près deux marées hautes et deux marées basses chaque jour, avec un petit décalage chaque jour. Et il y a trois sphères qui vont être influencées, c'est l'atmosphère, les océans et la Terre. On pense aux océans, mais on ne pense pas forcément à l'atmosphère et à la Terre. Ils vont être influencés un peu à la manière d'une boule anti-stress, qui va se déformer de manière ovoïde, vous savez, à cause de l'attraction principalement. Pour la Terre, par exemple, la marée terrestre, ça va être de l'ordre d'un mètre chaque jour, des deux côtés, qu'il va y avoir une déformation. C'est incroyable. Pour la marée avec donc les océans, ça va être au maximum 20 mètres pour les plus fortes marées. Il faut imaginer l'ellipse qui fait 20 mètres de plus entre la marée haute et la marée basse. Pour l'atmosphère, j'ai pas les chiffres, mais vous avez compris l'idée. Alors, l'atmosphère va être attirée par la force gravitationnelle de la Lune et du Soleil, mais ce qui a le plus d'influence, ça va être la chaleur du Soleil. Parce que l'air va être sensible au rayonnement avant d'être sensible à l'attraction, à la gravité. Les océans, ils vont être influencés, d'après vous, par qui ? La Lune, le Soleil, les deux ou...
La Lune ?
Et bien en fait, ils vont être influencés par les deux, mais principalement par la Lune. Le Soleil, lui, il a une capacité d'influencer les marées aussi, qui est égale à peu près 40% de l'influence de la Lune. C'est-à-dire que si vous cumulez Lune plus Soleil, ça fait 140%. Et quand il y a un alignement du Soleil et de la Lune, surtout quand ils sont du même côté, c'est là que vous avez les marées les plus fortes. Donc l'eau, ça va être la Lune, principalement, et aussi un peu le Soleil. On va dire deux tiers la Lune, pardon, et un tiers le Soleil. Et la Terre, elle va être influencée par perdu la Lune. La Terre, ça va être la gravité qui va être déterminante. Enfin, ça va être les deux, effectivement, mais surtout la Lune. En fait, parce que la force de gravité, c'est une force qui va être inversement proportionnelle au carré de la distance. Et donc, le Soleil est 400 fois plus loin, donc il va avoir, même s'il est plus gros, plus massif, il va être beaucoup moins influent au niveau de la gravité que la Lune qui est plus proche. Voilà, c'est comme ça que ça s'explique. Alors, j'ai trouvé deux interprétations sur ces trois sphères, l'atmosphère, la mer et la Terre. Première manière de le voir, c'est le corps, l'âme et l'esprit des enfants de la famille ou des personnes du groupe. Le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est ce qui est le plus extérieur, représenté par l'atmosphère de la Terre. C'est le soleil qui, par sa chaleur, a le rôle le plus marqué pour que les gens du groupe ou les enfants se sentent en sécurité d'un point de vue physique, qui va mettre en place les conditions. Le responsable d'une entreprise qui va mettre en place les conditions pour que les salariés ils aient un bureau, que les portes soient fermées pour pas qu'il y ait d'intrusion, qu'il y ait l'électricité. Voilà, c'est des conditions physiques. Le soleil, c'est sa compétence, plus que la Lune, de faire en sorte que physiquement, on se sente bien, en sécurité. Deuxième sphère, c'est l'âme, c'est représenté par la mer. Et là, c'est plutôt la Lune qui a le plus d'effet. L'amour d'une maman. Alors, la gravité, à mon avis, ça représente l'amour, en fait. C'est l'amour d'une mère va avoir plus d'influence sur ses enfants, même si le père, il aime aussi, mais l'amour d'une mère, il va avoir une influence très très forte, en fait, qui va déplacer de manière invisible la mère, c'est-à-dire qui va représenter l'âme de l'enfant, ou l'âme d'un groupe. C'est-à-dire qu'un salarié lambda va avoir plus d'influence sur l'unité intérieure des autres salariés que le chef. Parce que, imaginez, le chef, il va dire quelque chose, les salariés, ils vont discuter entre eux, et ils vont dire, mais oui, mais faut pas le prendre comme ça, et puis, regarde le boulot intéressant qu'on a, vous voyez, c'est-à-dire que sur les émotions, sur les passions, sur les inquiétudes, sur tout ce qui nous traverse, c'est ce qui représente l'âme, en fait. C'est plutôt la Lune qui va être la pièce maîtresse de l'âme. L'esprit, c'est-à-dire la partie la plus intérieure de nous-mêmes, qui va être représentée par la Terre, c'est encore la Lune qui a le plus d'impact sur la spiritualité des enfants, sur la spiritualité des membres du groupe, sur leur être profond, si vous voulez. Ça, c'était la première interprétation des influences du Soleil et de la Lune. J'en ai une deuxième à vous proposer. Ça va être le monde angélique, le monde démoniaque et l'humanité. Le monde angélique, représenté par l'atmosphère, c'est plutôt l'homme qui va l'influencer le plus, parce que l'homme dans un couple, bien sûr, dans le cas général, ou un responsable, le soleil, parce qu'il va créer des règles, il va faire des choses en disant voilà comment on fait, il va donner la grande direction, si j'ose dire, il va faire en sorte que la structure, l'édifice tienne, l'entreprise par exemple, ou l'équipe si c'est un manager, ou le père de famille qui va faire en sorte qu'il y ait une maison, qui est il va penser à toutes ces choses extérieures qui mettent en sécurité. Et du coup, le monde angélique va appliquer les règles que le soleil va édicter. Les anges vont tout faire pour favoriser tous ceux qui respectent les règles, ou défavoriser tous ceux qui trichent ou qui sont paresseux. Le monde démoniaque, maintenant, qui va représenter les mers, et c'est vrai que dans la Bible, la mer, ça représente toujours les forces des ténèbres, ça va être plutôt la Lune qui a le plus d'impact, qui va mettre en fuite les esprits mauvais, simplement parce que la Lune, quand elle a une paix en elle, une joie en elle, une pureté en elle, ça horrifie le monde démoniaque, en fait. C'est une présence, je dirais, la Lune, quand elle se réduit, qu'elle dit je vais faire preuve d'un peu d'humilité, même si j'ai pas forcément envie, d'une certaine paix, rien que sa présence crée une déflagration, en fait, comparable à celle que crée la Lune sur les marées. Alors le soleil aussi, il va avoir une influence, un tiers de l'influence c'est aussi le soleil, mais voilà, la lune en a un petit peu plus. Et l'humanité, représentée par la terre, c'est plutôt la femme qui va avoir le dessus pour attirer à Dieu les âmes, en fait. Parce que la femme, elle a un cœur qui va enfanter les gens autour d'elle, qui va enfanter ses enfants, et qui va en permanence amener à Dieu des gens, en fait, parce que c'est dans sa nature de prendre les personnes autour d'elle et de les confier à Dieu, de les offrir et de les aider à porter les souffrances. Et les salariés dans une entreprise, ça va être pareil, ils vont se prendre de plein fouet certaines règles un peu trop un peu trop raide édictée par le soleil, qui dit bah, maintenant on fait comme ci, comme ça, maintenant tout le monde finit à telle heure. Le soleil parfois édicte des règles qui sont un peu trop difficiles à appliquer, qui ne prennent pas en compte la spécificité de la Lune. Et la Lune va être va éviter que certains ne tombent, et donc la plus grande influence sur la Terre. Donc c'est une formidable complémentarité, ce qui fait que l'homme et la femme vont avoir une influence qui est énorme sur les enfants. Un couple qui est honnête va rayonner d'honnêteté sur les enfants, et ça va faire qu'ils vont avoir presque une difficulté à ne pas être honnête, quoi, c'est, vous voyez. Donc à l'échelle d'une vie, bien sûr, et puis à l'échelle d'une journée, un jour où le soleil et la lune, où l'un des deux va regarder un film, dans la journée qui suit, les enfants vont être beaucoup plus tentés de regarder un film. C'est-à-dire que les défauts, les travers qu'on va avoir vont se répercuter d'une manière visible dans la journée qui suit, dans les heures qui suivent, sur les gens qui dépendent de nous. Si mon responsable se met en colère un jour, même si je ne le sais pas, je vais être tenté par la colère plus que d'habitude. Certains témoignent de ça, des gens qui ressentent des influences spirituelles, et après coup ils disent, c'est incroyable, mon chef s'est mis en colère, et j'ai une envie de colère toute la matinée. Voilà quelques exemples, hein. Si mon chef, c'est quelqu'un de colérique, je vais ressentir la colère d'une manière un peu fréquente quand je suis au travail. Et puis le jour où je change de chef et j'ai quelqu'un de paresseux, je vais tenter plus par la paresse. D'un coup, c'est comme si, je suis moins tenté par la colère au travail, mais je suis plus tenté de me tourner les pouces, de finir plus tôt, d'arriver plus tard. Vous voyez, c'est cette influence-là, certains en témoignent. Dans Job, il est écrit « Qui me fera revivre les lunes d'antan, ces jours où Dieu veillait sur moi, quand sa lampe brillait sur ma tête, et quand dans la nuit j'avançais à sa clarté. » Job nous indique que les influences spirituelles que nous recevons de nos parents, de nos responsables, sont une manière pour Dieu de veiller sur nous. La lampe du soleil va briller sur ma tête, et la clarté de la lune va me permettre d'avancer même quand c'est la nuit pour moi, quand je suis dans une zone de difficulté. C'est-à-dire, je me laisse faire par les gens qui exercent une responsabilité sur moi, et ma tête va se mettre à briller, soit comme un soleil pour les gens qui dépendent de moi directement, soit comme la lune si je suis à égalité avec une autre personne. Et quand j'ai un doute, je vais faire comme le Christ dit, c'est-à-dire, dans le doute, tu pardonnes, tu tends l'autre joue, dans le doute, sois la lune, en fait, ne cherche pas à être le soleil. Voilà, la vie chrétienne, c'est plutôt d'être la lune. Et du coup, si j'ai des enfants qui me résistent, qui ne m'obéissent pas, le Seigneur est peut-être en train de me montrer que je suis une mauvaise lune. C'est-à-dire que quand mon responsable me demande des choses, je ne vais pas être suffisamment prompt, je ne vais pas suffisamment bénir en disant « Seigneur, merci pour cette décision qu'a pris le soleil ». Vous voyez, ou nos parents, même quand les difficultés relationnelles avec nos parents, notre chef ou nos enfants, vont souvent refléter la même difficulté qu'on génère quand c'est nous qui sommes le soleil ou la lune ou vice-versa. Vous voyez, le transfert se fait comme ça, et certaines difficultés, ça demande à être analysé comme ça. C'est assez intéressant de voir ça. Grand 2, le soleil. On va étudier le soleil un peu plus dans le détail. Les actions du soleil. Petit 1, les actions du soleil. On a dit, le soleil règle les jours et la lune et les étoiles règlent la nuit. Il est dit aussi, car le soleil, la lune et les étoiles qui brillent ont mission de servir, elles se montrent dociles. Le jour, c'est l'intervalle durant lequel quelqu'un exerce sa responsabilité. C'est la première interprétation. Le Seigneur, par sa parole, dirige sa course rapide. C'est dans le livre du Siracide, chapitre 42. Ce qui signifie qu'il a une proximité très grande, le Seigneur, avec chaque décision prise par un responsable. Si on veut méditer sur le soleil, je trouve que le chapitre 42 du Siracide, où on parle du soleil et de la lune, c'est vraiment intéressant. À chaque fois qu'un responsable prend une décision, c'est comme si le Seigneur était présent, le Père Céleste est présent d'une manière particulière. Ça, c'est un truc qui est extraordinaire, je trouve. C'est-à-dire que devant son ardeur, qui pourrait tenir? Le soleil, c'est une force de frappe du Seigneur dans le monde, et la manière dont Dieu se plaît à déchaîner sa puissance, c'est l'ensemble des responsabilités qu'il a confiées à chacun. Et comme il sait tout, il peut tout, il voit tout, en fait, même quand un mauvais responsable prend une décision, c'est le Seigneur qui, à travers lui, prend cette décision. C'est-à-dire que Il sait que le monde a besoin d'un électrochoc, et c'est lui qui veut que le responsable dise « Maintenant, on va imposer telle chose, telle loi mauvaise. » C'est le Seigneur qui, à un moment, veut s'inscrire, je dirais, dans le flot de toutes les décisions que chacun a prises et qui font que on se retrouve, par exemple, égaré ou plutôt béni à l'échelle d'une famille ou d'une nation, et qu'un responsable va dire « Maintenant, on fait ça. » C'est vraiment le Seigneur qui veut chaque décision. Même si, on peut dire, il aimerait encore plus que, in fine, que cette décision soit une bonne décision. Mais si ce chef prenait une bonne décision, ça voudrait dire que son pays ou sa famille, ce seraient des gens plutôt bien disposés, que ce seraient des gens droits d'esprit, etc. En fait, un responsable qui prend une mauvaise décision, on en avait parlé un petit peu, c'est d'abord parce qu'un peuple s'est égaré. C'est là que le soleil s'égare, en fait. Il se laisse entraîner. Saint Paul dit, dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, il nous parle de la mission d'apôtre, et il va parler successivement du fait qu'il est un apôtre un peu comme une mère et un peu comme un père. Nous avons été pour chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons encouragé, réconforté, supplié d'avoir une conduite digne de Dieu, lui qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Je pense que l'encouragement, on peut le faire correspondre à la lumière du soleil, le réconfort à sa chaleur et la supplication à la brûlure. Alors, petit 2, la lumière du soleil. La lumière, c'est plutôt les règles fixées par un responsable. C'est le fait de conduire un groupe. Par exemple, l'obligation de rouler à droite, de limiter la vitesse, tout le code de la route. Ça va être comme un encouragement pour le peuple français à utiliser nos automobiles de manière saine. Et on a, grâce à ces lois, un vrai degré de liberté, c'est de pouvoir nous déplacer tous en voiture, dans des bonnes conditions. C'est une lumière pour nous. Alors, prenons d'autres exemples de la lumière du soleil. Le jour, pour un chef d'entreprise ou un responsable d'un service, ça va être l'ensemble des heures travaillées. Et durant ce temps, le responsable va fixer un ensemble de règles. Et la lune, donc un membre du groupe, va accepter avec joie de se plier à ces règles et de faire qu'elles deviennent source de vie pour les autres. Dans un couple, dans le cas général, c'est l'homme le soleil. C'est lui qui incarne la loi. La femme qui est la lune va avoir moins d'intérêt à se battre pour fixer elle-même les règles parce que sa lumière est moindre par rapport au soleil. Et en fait, une femme qui va trop se battre sur « c'est moi qui décide », en fait, elle va, comme sa lumière, elle a une lumière différente, elle va se mettre dans une zone d'inconfort et de fatigue. Et ça va la mettre en difficulté vis-à-vis de ses enfants et vis-à-vis de son entourage. Parce qu'elle a une lumière qui est trop changeante, en fait. La femme, sa compétence, c'est d'abord une capacité d'adaptation, en fait. C'est une lumière différente. Et une capacité d'aimer, comme on le verra après. Mais dans le domaine d'être inflexible, de dire « on fait comme ça », et avant de changer les règles, on va réfléchir avec un esprit très masculin, en fait, bah, c'est vrai que l'homme, il a quand même ce talent-là, quoi. Le côté très pragmatique, la règle, tac, machin. Et effectivement, après, si la femme, elle se rend compte qu'il y a une règle qui est mauvaise, elle, son intérêt, ça va plutôt être d'aller convaincre son mari, de discuter, et puis le mari, ensuite, la plupart du temps, il n'aura pas pensé à changer la règle, il va dire « ah oui, c'est vrai, t'as raison », et puis, dès que l'occasion va se présenter, devant les enfants, il va dire « désormais, ça, on va le faire comme ça. On va mettre plus que 2 carrés de chocolat au goûter avec le pain. » Et du coup, la femme n'aura plus qu'à dire « vous rappelez, papa, il a dit 2 carrés de chocolat avec le pain. » En fait, cette manière de faire est une zone qui va faire qu'on se fatigue beaucoup moins dans le couple. La femme, parce que je dirais qu'elle va, solliciter son mari à chaque fois qu'il faudra changer les règles, en fait, mais elle participera aussi à l'élaboration des règles. Mais en apparence, c'est pas elle qui le fera. Et l'homme, parce que il va avoir l'impression qu'on respecte son autorité. On va lui donner l'impression que c'est lui qui décide, en fait. Normalement, tous ceux qui dépendent du soleil dans une famille et d'un groupe d'individus, et dans le monde de l'entreprise, quand ils ont une décision à prendre, ou une action qui a de l'importance aux yeux du soleil, doivent se soumettre à ses rayons et venir en pleine lumière. Alors, je prends un exemple. Imaginons un père de famille qui est sensible à ce qu'on lui demande avant d'emprunter ses outils. même si c'est peut-être un peu excessif, parce qu'on imagine pour un trop novice, mais bon, imaginons lui, ce père de famille-là, il dit « Pour moi, c'est très important que vous me demandiez pour chaque outil que vous empruntez. » C'est ça la lumière qu'il projette sur sa famille. Enfin, une des lumières, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Son épouse et ses enfants, ils vont être bénis par le Seigneur d'une manière spéciale lorsqu'ils vont venir le voir avant de lui emprunter un marteau. Pourquoi ? Parce que le père, il va être touché qu'on respecte la règle qu'il a fixée. La règle, ben je mets les outils, on passe par moi. Parce qu'il va pouvoir donner des conseils qui vont accélérer l'ouvrage de celui qui vient le voir. Parce que dans ce royaume-là, qui est sa famille, je dirais qu'il va, il va avoir une vision. Ça va être peut-être lui qui va avoir la vision la plus ajustée pour un objectif à atteindre, en fait. Prends tel outil, tu verras, tu iras plus vite. Utilise-le en le tenant comme cela. Voilà, il va donner les conseils parce que on se soumet à ses rayons. Il va se réjouir que son épouse et ses enfants soient éclairés par sa lumière, qu'ils deviennent un peu comme lui, des bricoleurs qui parviennent à leur fin. Il s'élance en conquérant joyeux. Nul n'échappe à son ardeur, il dit dans le psaume. Une des bénédictions que va donner le Seigneur au Père qui a fixé cette règle de venir le voir lorsqu'on emprunte ses outils est qu'il va très vite savoir si on ne passe pas par lui quand on s'extrait à ses rayons, parce que ça va laisser des traces. Parce que le Père connaît par cœur où et comment est rangé chaque outil. Soit parce que celui qui prend un outil va être vu par d'autres. Vous voyez, quand on cherche à s'extraire au rayon du soleil, on va faire quelque chose. Le soleil a dit « Dans tel domaine, je veux vraiment que vous me disiez ». Même si ça semble pas juste, et c'est vrai qu'aujourd'hui, des responsables dans une entreprise ont parfois donné des règles, on se demande quel est l'intérêt. Mais si pour eux c'est important, quand on ne le fait pas, souvent le soleil va être au courant, parce que le marteau aura été remis à droite au lieu d'être mis à gauche, et ça va être source de manque de bénédiction pour le groupe, en fait. C'est-à-dire que celui qui a fait ça va être considéré comme le soleil, comme un renégat, en fait, vous voyez ? Donc ça, pour être béni, on a intérêt à bien comprendre ce que demande le soleil. Et effectivement, parfois, on le voit avec... Il y a une histoire avec le roi Saül. On verra un petit peu plus loin que Saül est un roi d'Israël qui a une difficulté à jouer le rôle de soleil en tant que roi et le rôle de lune par rapport à Dieu. Et du coup, quand il va consulter le Seigneur ne va pas lui répondre. Pourquoi ? Parce qu'on va être dans un moment où il a fixé des règles que certains n'arrivent pas à appliquer. C'est son fils, en l'occurrence, il a dit « Vous jeûnez toute la journée ». Et son fils Jonathan a mangé du miel à ce moment-là, il n'était pas au courant. Et en fait, quand il y a des gens qui sont en désaccord sur la règle, enfin qui n'appliquent pas les règles et que le soleil va... être fâché contre ces personnes, ça va être source de blocage dans le groupe, en fait. Donc le soleil va avoir intérêt à fixer des règles qui soient appliquées par tous. En fait, dès que le soleil va être trop arriviste en disant « je fais mes règles », etc., il va priver son groupe de bénédiction. Et c'est pour ça qu'il va avoir intérêt à ce que sa lumière elle soit réglée en fonction de ce que dit la lune, son épouse, ou les instances sociales, le CE, le CSE dans une entreprise. Enfin, il va avoir vraiment intérêt à ne pas prendre des décisions tout seul, quoi. Il va couper les vivres, sinon. Ça, c'était la lumière du soleil. Petit 3, la chaleur du soleil. La chaleur, c'est ce qui réconforte, ce qui apporte une protection. Le soleil va créer un environnement de sécurité, parce que le soleil est fort. Et reçoit une grâce de Dieu pour mettre en sécurité les personnes qui sont sur son territoire, comme on l'a vu. Il va apporter la guérison dans ses rayons, c'est dans le prophète Malachie. C'est la chaleur du soleil, ça va être sa force constante. Un responsable qui ne cesse d'encourager, de soutenir, de dire on fait comme ça, puis je vous aide dès que vous avez besoin. Je viens voir mon responsable, parce que je rencontre une difficulté avec un client, par exemple, et il va se mettre en quatre pour me montrer comment résoudre mon problème, comment réparer ma bêtise, si c'est le cas. Les enfants vont voir leur père parce qu'ils ont encore cassé quelque chose dans la maison, et leur père leur dit que ce n'est pas grave, parce que c'est normal qu'on casse des choses parfois, et qu'il a dans son atelier tout ce qu'il faut pour réparer, il a des clous, des vis, de la colle, et il vient de faire les courses à Brico Dépôt, et donc il est ravi en fait de pouvoir montrer son talent de réchauffer, en fait, de réparer, et de pouvoir montrer à ses enfants que c'est pas un responsable méchant qui va leur taper dessus dès qu'ils cassent quelque chose. Et dans l'entreprise, pareil, en fait, normalement, un responsable il réchauffe. Donc revenons à l'astre solaire. Quel est l'intérêt de s'exposer à la chaleur de cet astre? Pour les plantes, ça va être la photosynthèse. Pour nous, ça va être la photolyse, c'est-à-dire la production de vitamine D contre la déprime, qui fortifie nos os, qui permet la croissance, qui stimule notre immunité, qui améliore nos performances musculaires, qui réduit le risque de démence. Donc il y a beaucoup de raisons de s'exposer à la chaleur du soleil, de ne pas, face à un responsable, être trop heureux de venir le voir dès qu'on a un petit doute sur « ça va peut-être intéresser mon responsable que je fasse ça ». C'est un gage de réussite. Alors, lorsque c'est une femme qui joue le rôle du soleil, par exemple un professeur ou une mère qui est seule face à ses enfants, ou une responsable de service, en fait ça va demander de fonctionner un peu comme un homme qui va mettre en avant sa force, qui va encourager d'une manière ferme et constante. Et comme c'est moins dans la nature féminine, il y a de se faire violence, en fait, pour incarner une constance, plutôt que de se placer dans une position un peu comme une position amicale de la Lune, qui est à égalité. Il y a quand même une stature, en fait, pour la femme, qui est un petit peu plus difficile, et pour l'homme, ça va être identique quand il joue le rôle de la Lune, en fait, de ne pas être dans un rapport de force par rapport aux autres. Voilà, on voit que, nos compétences masculines ou féminines doivent être dépassées en prenant exemple sur le sexe opposé quand on est dans un domaine où c'est le sexe opposé qui est plus fort. Petit 4, la brûlure du soleil. La brûlure du soleil, ça va être de sanctionner une conduite coupable. C'est comme si c'était la dernière chance que le soleil offrait à quelqu'un de changer. En fait, je vais passer par la sanction parce que les autres manières n'ont pas marché. Pour celui qui ne veut pas comprendre, par exemple, dans le livre des Nombres, chapitre 25, « Le peuple vient de se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Le Seigneur dit à Moïse, « Saisis tous les chefs du peuple, fais-les pendre devant le Seigneur à la face du soleil, afin que l'ardente colère du Seigneur se détourne d'Israël. » Donc c'est très guerrier, fait les pendre face au soleil jusqu'à la tombée du jour. Quelque chose de grave a été commis, imaginons par exemple un professeur, le soleil, qui s'aperçoit que plusieurs élèves trichent en classe, ou font des choses répréhensibles. Devant Dieu, la classe est en état de péché, et cela va créer un blocage des grâces que va recevoir cette classe. Le professeur va punir les élèves concernés devant toute la classe, il va bien leur mettre la honte devant tout le monde, et ce faisant, c'est comme s'ils faisaient pendre leur corps devant le soleil jusqu'au coucher du soleil, pour prendre cette image colorée. Il rétablit la justice vis-à-vis de ses élèves fautifs, il y a une vertu éducative pour tous, et il fait rentrer à nouveau la classe dans l'alliance avec le Seigneur. En fait, le soleil, s'il est bon et juste, il va avoir la capacité de corriger la méchanceté et l'idolâtrie, les pressions injustes de tous les gens qui dépendent de lui. C'est-à-dire que, en fait, quelqu'un qui exerce bien son rôle de soleil, imaginons une prof par rapport à ses élèves, elle va guérir un petit peu l'âme des élèves, simplement parce qu'elle est à la fois, elle va les, en fait, parfois les punir ou les réchauffer ou les éclairer comme le fait le soleil, d'une manière juste. Que l'on te craigne tant que soleil et lune brilleront jusqu'au siècle des siècles. Le roi David, lorsqu'il commet en secret l'adultère avec Bethsabée, puis il commet le meurtre de son mari Uri le Hittite, se fait morigéner par le Seigneur, à travers le prophète Nathan, qui lui dit « Je vais te corriger devant tout le monde, sous le soleil. Ainsi parle le Seigneur, voici que je vais faire surgir ton malheur de ta propre maison. Je prendrai tes femmes sous tes yeux, je les donnerai à un autre. Il couchera avec tes femmes sous les yeux de ce soleil, car toi tu agis en secret, mais moi je ferai cela devant tout Israël et devant le soleil. » En somme, tous les serviteurs qui ont peut-être été scandalisés par l'attitude, par l'adultère et le meurtre, parce qu'il y en a plein qui ont dû le savoir, forcément, même si c'est pas tout le royaume, ils vont être témoins de la correction infligée à David par Dieu. Le soleil n'a pas joué son rôle, c'est le Seigneur lui-même qui est le véritable soleil, qui va corriger le soleil en le soumettant à des épreuves dont tout le monde, dont tout son royaume vont être témoins. Petit 5, le cycle du soleil. On a parlé du fait que le soleil s'efforçait d'être constant durant sa mission, mais dans les faits, lui aussi parcourt un cycle. Il existe en effet plusieurs cycles caractéristiques lorsqu'on est le soleil. Le cycle principal, c'est la journée. Alors en journée, on a plusieurs phases. On a le lever du soleil, c'est le début de la mission. Le soleil va apparaître en rouge pendant les premières minutes, comme tout responsable qui débute une mission et qui va mettre du temps à se faire à son poste, à prendre en main toutes ses prérogatives. Comme le soleil est rouge et ne brille pas encore de ses pleins feux, comme on l'attendrait de sa part, il peut être regardé à l'œil nu, un nouveau responsable va mettre un peu de temps à monter en puissance, et ses erreurs de débutant vont être visibles par tous. Ça, c'est une constante. Quand quelqu'un démarre, ses erreurs sont visibles. Des parents vont commencer par faire des erreurs avec surtout les aînés ou alors les premiers mois de la vie d'un enfant. Il y a des erreurs qu'on fait en tant que parent, c'est normal. Et puis petit à petit, ils vont prendre de l'assurance. Et c'est vrai que cette phase d'adaptation, c'est d'abord un terrain d'humilité pour le soleil, de se dire, après tout, c'est normal, je suis le soleil, je fais des erreurs, c'est normal de faire des erreurs, et puis c'est pas grave en fait. C'est que le Seigneur a tout prévu, il le sait qu'on devait faire des erreurs avec lors du début de la mission. Et c'est un point d'humilité de se dire j'ai fait des erreurs durant ma mission, surtout au début, et ça s'est forcément vu, du coup. Et on est, en tant que parents, comme le soleil, les enfants vont mettre du temps avant de quitter la maison. Et donc c'est comme si, avec nos enfants, on va effectuer un certain nombre de cycles de soleil avec eux, de lever et de coucher. Et donc c'est logique que nos enfants connaissent tous nos défauts. Et c'est vrai que une des erreurs du soleil, c'est de sous-estimer à quel point la Lune connaît tous ses défauts, quoi. Ou nos enfants connaissent nos défauts, les paroissiens d'un curé connaissent ses défauts. En fait, on a l'impression que, même en cachant les choses, mais en fait, nos défauts sont connus par les gens qui dépendent de nous, quoi. Notamment grâce au lever du soleil. En fait, à tous les levers du soleil, quand quelqu'un, par exemple, un père et une mère de famille, pendant toutes les années où il y aurait eu des sujets nouveaux pour eux, avec une naissance, une adolescence, tous les sujets en fait, ils vont à un moment être rouges et pouvoir être vus à l'œil nu en fait. Dans l'Écriture sainte, le lever du soleil correspond à un moment où vont être jugés les méchants et où vont être bénis les amis de Dieu. C'est-à-dire que ça peut être une chose qui peut nous consoler, c'est de dire que Dieu va nous prendre notre défense, et les anges vont prendre notre défense devant toutes nos erreurs quand on débute quelque chose. Et juger les méchants. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on peut demander. Seigneur, je débute une mission, alors je sais que je réclame l'indulgence, je réclame ta mansuétude, je réclame parce que je sais qu'il y en a qui vont m'accuser là au ciel en disant il s'est trompé, etc. pour me tenter. Mais moi, je déclare que c'est normal, le lever du soleil, c'est normal d'être moins efficace. Et il va donner des bénédictions particulières. Hein, comme me disent mes parents, par exemple, tout enfant arrive avec son pain. Il y a un nouveau lever de soleil pour nous qui est, on a un nouvel enfant, il y a une nouvelle mission pour nous. Je vais avoir des bénédictions spéciales pour peut-être trouver un nouveau travail, trouver une maison, avoir une augmentation pour subvenir aux besoins pour cette nouvelle mission. Autre exemple, Salomon succède au roi David et il va juger un certain nombre de personnes qui ont tourmenté son père David, notamment cet homme qu'il l'a insulté devant tout le monde, il va exercer la justice vis-à-vis de tous ces gens qui ont été mauvais avec lui ou de ces gens qui ont été bons et qui va récompenser. Un nouveau responsable qui arrive souvent va corriger certaines choses que l'autre, celui d'avant, n'arrivait pas à corriger. Et il va y avoir une amélioration, toujours une petite amélioration par rapport à avant en fait. Parce que le royaume de Dieu progresse. Deuxième moment dans le cycle journalier du soleil, c'est le milieu de la journée. C'est le moment où le soleil brille le plus, où il chauffe le plus, où les sujets du soleil sont le plus susceptibles de sentir ses effets. C'est le milieu de sa mission. Alors, ça va être, par exemple, le roi Salomon avec toute sa sagesse. Ça va être l'âge du milieu de la vie, si on compare la course du soleil avec une vie entière. C'est les moments où il y a un âge où on a peut-être quelque chose une force particulière. On n'est plus un enfant et on n'a pas encore les problèmes de la vieillesse. Ça va être dans nos journées, pour revenir à une journée, le milieu du jour ou le moment d'après la Bible et aussi d'après un certain nombre de mystiques où le Seigneur se fait tout proche. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et me tiens à l'ombre du Puissant, par exemple dans Genèse 45, il va festoyer avec ses frères en milieu de journée, à faire un festin de viande grasse et de vin capiteux. C'est un moment où le Seigneur va juger ce qui nous tourmente. En fait, on va avoir une proximité plus grande avec le Seigneur. Le coucher du soleil, autre phase, c'est le moment de la fin de la mission. Et on peut à nouveau le voir à l'œil nu, parce qu'on va à nouveau faire des erreurs. On va pas forcément être en phase avec la fin de la mission. On va parfois vouloir en faire trop, parfois avoir du mal à faire la passation avec le suivant. Donc on va à nouveau faire des erreurs. Il y a à nouveau notre entourage qui va être témoin des petites imperfections. Il est demandé dans la Bible de ne jamais laisser le soleil se coucher sans avoir recouvert celui qui était nu, sans avoir pardonné. C'est le moment où on va faire le compte, on va regarder comment s'est passée la mission. Il y a des gens qui vont... On va prendre des livres, on va ouvrir, on va regarder. Et donc c'est le moment où ça vaut le coup de dire: Seigneur, je sais que j'ai pas été parfait, mais après tout, viens me bénir quand même, viens me donner les grâces. On parlait de tous les jours avant 18h. De dire: Seigneur, merci pour la journée, et je te confie la journée suivante, voilà, ma mission suivante. Ou: Seigneur, merci pour ces 3 ans que j'ai passé au service de tel organisme, ou de la paroisse, ou de ce travail, parce que maintenant je change de travail. Viens me pardonner mes erreurs, et viens bénir mon travail suivant. Voilà, il y a une porte aussi, qui n'est pas forcément liée du coup à la journée, qui va être la porte du changement de travail, ou du changement de mission, et c'est important de marquer le coup en proclamant devant le Seigneur que... C'est normal, j'ai fait des erreurs, mais merci quand même, et tu me pardonnes mes erreurs. Et en disant ça, ceux qui voudraient profiter de ces erreurs pour me nuire, ou des personnes physiques ou des esprits mauvais, vont être humiliés dans leurs attaques, parce que le Seigneur va me défendre. J'ai exercé le rôle du soleil, et j'ai fini ma mission. Donc le coucher du soleil, ça peut être par exemple la période de la fin de la vie où on va voir à l'œil nu beaucoup plus nos défauts, en fait. Nos défauts vont être petit à petit. Donc on a intérêt à s'améliorer avant d'être vieux, parce que pour éviter que tout le monde voit nos défauts, qu'il n'y ait plus que des qualités qui restent. C'est le moment où les lions rugissent après leur proie, le coucher du soleil. Donc ça va être effectivement tous les esprits mauvais, mais nous, quand on est fort, on est un lion, et donc on va rugir après notre proie. On va dire: Seigneur, viens me donner la nourriture pour la journée suivante. Et c'est le moment où on remet les compteurs à zéro, c'est-à-dire que la Bible dit qu'on retrouve notre pureté quand on demande pardon au Seigneur. J'ai commis un péché, j'ai pas encore eu le temps d'aller me confesser, quelque chose qui m'atteint très fort, mais je peux dire: Seigneur, voilà, avec ta grâce, tu me pardonnes, même si, enfin, j'ai le désir d'aller me confesser très vite. Mais il faut croire qu'on a été pardonné à peu près vers 18h, parce qu'une nouvelle journée commence. Le compteur est remis à zéro, quoi. On n'est pas écrasé chaque jour plus, normalement. Ce qui fait qu'on est écrasé chaque jour plus par le remords, c'est qu'on a fini la journée précédente en se disant « j'ai été en échec aujourd'hui ». Le « j'ai été en échec aujourd'hui » n'est pas une bonne manière de réclamer ses droits, en fait, d'une journée à l'autre. C'est plutôt: j'ai eu une victoire aujourd'hui, parce que malgré mon péché, malgré ce péché qui m'accable, parce que il m'a l'air les péchés sexuels, notamment d'impureté, ou certains péchés en fait qui vont nous accabler plus parce qu'on les voit plus, alors que quand on a été injuste ou méchant avec d'autres, on le voit peut-être moins, alors que ça peut être aussi grave, mais ces péchés-là vont parfois nous couler, alors qu'on devrait dire, il est dit dans la Bible que lorsqu'il y a une nouvelle journée, et qu'on demande pardon, on redevient pur, on bénéficie à nouveau des grâces du sacrement de réconciliation, on s'unit aux prières des anges et des saints à travers les siècles, et on bénéficie du pardon du Seigneur, c'est tout. Et puis, il est dit, le soleil connaît l'heure de son coucher, toujours sur le coucher. Ça, c'est assez paradoxal, c'est qu'un responsable va savoir intuitivement quand finit sa mission. Il va avoir quelque chose qui va lui faire sentir que sa fin est proche. Saint Jean-Baptiste dit: il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Il y a beaucoup de grands saints qui témoignent que avant leur mort, qui disent je vais mourir bientôt. Saint Paul. Et en fait, quelque part, plus on est proche du Seigneur, plus lors de la fin d'une mission, on a des signes. Je suis pas bien dans mon boulot, faut que je change. Ça devient trop hostile, cette mission. Ou voilà, on a des signes qui nous sont donnés, et en priant, on sent que l'heure de notre coucher arrive. En fait, c'est plutôt une bénédiction, en fait, de voir certains signes négatifs comme le signe que c'est bientôt la fin pour nous. Et puis la nuit. Pour le soleil, dernière phase, ça va être le moment où le soleil n'est pas en mesure d'assumer son rôle, où il a besoin de s'isoler. Alors pour les hommes, ça va être le moment où il a besoin d'être seul pour résoudre tout seul son problème comme un grand, parce que l'homme, il n'aime pas qu'on lui dise je peux t'aider, t'as l'air triste. C'est pas trop dans sa nature en fait. Il a besoin que ce soit lui qui demande de l'aide, ou alors d'arriver lui-même à la conclusion, quoi. Voilà. Et ça, c'est l'art de la lune, ou de l'épouse, ou d'un membre de l'équipe, de suggérer des choses en faisant comme si c'était pas elle qui avait eu l'idée, mais tu te rappelles, t'avais fait ça et tu te sentais mieux la dernière fois. Voilà, de dire des choses pour que le soleil, il arrive à sortir de la nuit sans se braquer, parce que en fait, quand il est dans cette attitude de difficulté ou d'absence, il peut avoir ce défaut-là d'être trop à mal prendre quand on cherche à manu militari, à le tirer de là, quoi. Il a besoin de cette délicatesse-là, quoi. C'est les situations délicates. J'en ai parlé un petit peu, mais dans les situations où le soleil se sent en difficulté, il vaut mieux laisser faire la lune, quoi. Ça, c'est l'humilité du soleil, de ne pas régenter son territoire tout seul. Je ne vais pas m'étendre dessus. Grand 3, la lune. Je vais parler des actions de la lune. Alors, les actions de la lune, saint Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens, dit « Nous avons été pleins de douceur et de bienveillance, nous vous avons entouré de soins, nous avions pour vous une telle affection que nous étions prêts à vous donner non seulement l'évangile de Dieu, mais aussi notre propre vie. » Voilà, on voit un petit peu les actions de la lune. Alors, j'arrive au petit 2. L'éclat de la lune durant le jour. Je vais essayer de répondre à cette question. À quoi sert la lampe durant le jour ? En journée, lorsque la lune est présente dans le ciel et à côté de la terre, qu'il n'y a pas trop de nuages, et que ce n'est pas la nouvelle lune, on voit la lune. Alors, la lune, tout d'abord, il faut savoir qu'elle est en rotation synchrone avec la terre. C'est-à-dire qu'elle regarde toujours la terre sur la même face. On ne voit jamais la face cachée de la lune. C'est toujours la même face qui nous est cachée. Elle nous montre toujours, en fait, les bons côtés du soleil. C'est-à-dire qu'elle est un témoin qui va garder pour elle les mauvais aspects du soleil qu'elle voit, et qui va montrer aux autres uniquement ce qui va bien chez le soleil. Donc elle ne va pas déclencher une tempête solaire en allant voir le papa pour lui parler d'un enfant d'une manière négative. Parce qu'effectivement, elle va aussi répercuter uniquement les bons côtés de la Terre au soleil. Pourquoi je le dis ? C'est parce que la pleine lune, en fait, le contour de la lune est très lumineux, alors qu'un objet que vous éclairez, normalement, le contour est sombre. Et en fait, ça montre que les rayons que le soleil se prend, en fait, qui sont réfractés, en fait, dans les deux sens, la lune ne fait que renvoyer de la lumière, pas de l'obscurité. Et c'est un fidèle témoin là-haut. On trouve l'expression « belle comme la lune ». Sa beauté, c'est d'être revêtue de la lumière du soleil. Elle dépend du soleil et elle fait tout pour montrer la beauté du soleil et la beauté de ce que fait le soleil. On trouve un exemple avec David, qui à un moment va aller se battre en obéissant au roi philistin Achish, et il va avoir tout le monde à dos, et il va quand même, par son obéissance, remporter des immenses victoires. C'est assez intéressant de lire ce passage-là, qu'on trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 29 et 30. Et il reçoit beaucoup de bénédictions. Petit 3, l'éclat de la lune durant la nuit. La nuit, symbole de difficulté et d'endormissement. Elle va veiller à ce que ceux du groupe qui rencontrent une difficulté ne se perdent pas. Elle va les guider sans s'imposer, avec son éclat qui n'éblouit pas. Et elle va prendre sur elle les souffrances de l'enfant ou des membres du groupe, des personnes qui ne vont pas bien. Et elle va, en fait, quand elle estime nécessaire, elle va trouver le bon moment pour parler de cet enfant à son mari, ou d'un membre de l'équipe à son chef, pour intercéder en faveur de l'enfant, pour parler de la bonne manière, pour que le soleil ait toutes les infos pour bénir encore plus cette personne et aider la lune à résoudre le problème. Et ensuite, en fait, si la lune présente bien les choses, en fait, le soleil, il va être d'accord la plupart du temps avec ce que propose la lune. Dans la première lettre de Saint-Pierre, il est dit que la conduite des femmes, même sans parole, gagne les maris. Et lorsqu'elle veut contredire le soleil, parce qu'elle estime que vraiment il y a une décision qui est mauvaise, il y a un passage qui parle de la reine Esther qui va se préparer pour être vraiment en sorte d'être belle et que le soleil la trouve tellement belle, que enfin le roi il va lever son sceptre. Et ça, je pense que c'est un symbole d'arriver à n'avoir aucune colère et à se préparer suffisamment pour parler d'un sujet difficile, en fait, qui peut être révoltant. Et ça, autant dans une équipe, quand je vais aller voir mon chef, parce que vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose qui est négatif comme décision, de faire comme Esther, en fait, d'être dans une telle humilité que la personne ne va pas être perturbée par notre colère ou notre envie de lui prendre la barre et de lui arracher des mains le gouvernail. J'ai un autre cas, par exemple, c'est quand un enfant tombe amoureux, quand il quitte la maison, notamment, ou juste avant de quitter la maison, eh bien, en fait, je pense que c'est une position qu'on a par rapport à lui d'être la lune et non pas le soleil. Parce que l'enfant, il est dans un domaine de son intimité où c'est vraiment lui qui règne et il est nécessaire pour maintenir le dialogue et que l'enfant nous écoute de faire comme la lune, en fait, d'avoir une vraie... Il y a beaucoup de couples de parents qui sont en blocage avec leurs enfants, qui auraient épousé la mauvaise personne ou autre, et critiquer la belle-fille, par exemple, c'est un piège très très fort de blocage relation père-fils ou mère-fille si c'est le beau-fils. Face aux conjoints de nos enfants, il faut se comporter comme la lune, en fait. Petit 4, la force d'amour de la lune. On a parlé de l'attraction. Eh bien, en fait, ça va être le cœur de la femme qui est grand et qui a la capacité, en fait, de prendre les gens autour d'elle et puis de les bénir, de prendre les souffrances, d'écouter les petits bobos des uns et des autres. Voilà, ou d'un membre d'un groupe. Et la perte de sang mensuel d'une femme, en fait, c'est vraiment le symbole d'une gratuité permanente, de donner gratuitement et de prendre la souffrance sans se plaindre, en fait, malgré la perturbation inhérente aux règles, en fait. Voilà, la lune, elle va trouver la joie dans le fait de se donner et de donner la vie autour d'elle. Petit 5, le cycle de la lune. La force d'amour de la lune va tenir aussi du fait qu'elle est changeante. Elle n'a jamais le même aspect au fil du mois, parce qu'il y a l'humeur qui change, les émotions. Pensez à vraiment au cycle de la femme, c'est assez évocateur. Et on peut penser aussi à saint Paul qui nous dit « Avec les juifs, j'ai été comme un juif pour gagner les juifs. Avec les uns, les autres, avec les faibles, j'ai été un faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. » La force d'amour, c'est de s'adapter aux faiblesses des autres, d'avoir une adaptabilité incroyable, en fait. Et comme nous-mêmes, enfin, quand on est la lune, en fait, on n'a pas la même constance que le soleil, même quand on est un salarié lambda dans une entreprise, je dirais que ça va montrer, enfin, les autres vont aussi voir nos mouvements d'humeur, nos faiblesses, et ça va nous donner aussi une longueur d'avance pour pouvoir soigner autour de nous. Le fait qu'elle soit changeante, ça lui donne aussi une particularité, c'est que quand elle est en pleine lune, elle est 12 fois plus lumineuse que quand elle est en quartier. Sa surface angulaire éclairée n'est que 2 fois supérieure, et pourtant en pleine lune, elle brille 12 fois plus que quand elle est à demi-lune. Ça, je pense que c'est le moment où la lune a son moment de gloire, où on va l'interroger, et il n'y a que elle qui va pouvoir résoudre un problème donné. À force de cette mise en deuxième, elle va éclairer de manière vraiment très forte. C'est le contraste par rapport à d'habitude. Et puis dans le cycle de la lune, il y a aussi le passage à vide mensuel, ce qui va correspondre aux règles pour la femme, avec toutes les perturbations au niveau de l'humeur, etc., de la fatigue, qui va nécessiter pour le soleil d'avoir une grande douceur, en fait, une compréhension. Et pour un salarié, ça va être un moment d'une difficulté particulière. Imaginons, il a une difficulté personnelle, un problème de santé. Et c'est là qu'on va trouver la nécessité de cette deuxième règle du soleil et de la lune, qui est « Marie, aimez vos femmes », qu'on trouve dans Éphésiens 5, 22. Et aussi dans la première lettre de Saint-Pierre, chapitre 3, « Vous, les maris, de même, menez la vie commune en tenant compte de la nature plus délicate de vos femmes. » Et le moment où la lune a un passage à vide doit être pris en compte par le soleil, qui pourrait être tenté, en fait, de faire preuve de méchanceté ou d'incompréhension ou de, pour un chef d'entreprise, vis-à-vis d'une femme, par exemple, qui part en congé maternité. Normalement, heureusement que les lois permettent vraiment de prendre en compte ça, quoi. J'ai fini sur la lune. Grand 4, j'arrive au la lune et le soleil qui s'obscurcissent. Alors, petit 1, les astres qui sont humiliés lorsque Dieu revient, les astres qui d'habitude brillent vont être perturbés, et notamment le soleil et la lune. Le soleil, ça va être en ne brillant plus comme il faut, en ne chauffant plus comme il faut, comme on l'a vu. Et la lune, de la même manière, qui va paraître couleur de sang. Quand on regarde un certain nombre de prophéties qui sont dites, notamment pour notre époque, ça va être notamment par rapport à des activités volcaniques intenses, certains disent ça. L'atmosphère va empêcher le soleil d'éclairer correctement. Ça va être la lune qui va avoir une lumière qui va la faire ressembler plus à un aspect rosé, en fait. Voilà, il va y avoir des cataclysmes au niveau du soleil et de la lune. Ils vont brûler, le soleil va brûler d'une manière très forte à certains moments, et brûler plutôt des personnes qui vont maudire Dieu, c'est-à-dire que ce qui protégera les gens qui continueront à aimer et avoir confiance, même sans forcément être chrétiens, eh bien, cette confiance va les protéger de la brûlure du soleil, en fait. Il va y avoir des miracles dans le soleil et la lune. À la fin du livre de la Sagesse, il y a tout un passage qui commente ça, que dans les périodes messianiques, les périodes où Dieu revient, les éléments ne jouent plus le rôle habituel. L'eau arrête de mouiller, le soleil arrête d'éclairer, et en fait, c'est-à-dire qu'ils vont exercer une attitude sélective sur les personnes, c'est-à-dire que ça ne va pas brûler tout le monde. Il y en a qui vont être brûlés et d'autres qui vont être épargnés d'une manière mystérieuse, en fait. Donc par rapport à ces prophéties, moi j'ai envie de dire confiance, parce que beaucoup sont conditionnels. Le démon peut très bien susciter des prophéties, c'est très facile quand on lit ça de dire bah, voilà comment ça va se passer avec un peu d'imagination. Alors que quand on pense à l'homme et la femme, souvent c'est des sujets dont on ne parle pas, alors qu'à mon sens ils sont plus importants. Donc je m'arrête là pour les astres humiliés. Petit 2, c'est l'exemple de Saül, le roi, qui d'après moi est un soleil qui est un peu obscurci. Au chapitre 8 du premier livre de Samuel, le peuple demande un roi, et il reçoit Saül, qui reçoit une onction prophétique très forte et qui accomplit de grandes victoires pour le peuple de Dieu. Et pourtant, Saül, il a un problème, c'est qu'il a du mal à obéir aux autorités. Il est le soleil, car il est le roi, mais par rapport à Samuel, le prophète et le prêtre, il est la lune, puisque Samuel parle de la part de Dieu. Alors au chapitre 10, il va par exemple se cacher lors de son investiture comme roi. Il va se cacher parmi les bagages, ce qui va à mon avis représenter les choses secondaires. Il va avoir la tête encombrée par des choses secondaires, il va faire plein de lois, plein de choses, mais il ne va pas forcément se concentrer sur quelle est ma mission et quel est l'objectif principal. Pour un soleil, l'objectif principal, ça va être le salut des âmes, le fait que les gens soient bien dans l'entreprise. Ça ne va pas être de mettre en place des outils sans fin, sans prendre en compte les salariés, par exemple. Saül, par exemple, ne va pas attendre Samuel pour offrir le sacrifice, il va outrepasser la place du prêtre. Au chapitre 14, son fils Jonathan va lancer une attaque contre les Philistins sans en avertir son père, donc son fils va se soustraire au rayon du soleil. Et c'est le moment où Saül va dire « Je ne veux pas que vous mangiez, parce que je proclame un jeûne. » Jonathan va manger du miel devant tout le monde, et le peuple va devoir prendre sa défense pour ne pas que son père le fasse mettre à mort. Vous voyez, donc c'est une famille où ils ont un manque de confiance entre père et fils, et puis le père va avoir un manque de confiance vis-à-vis de Dieu, et vis-à-vis de Samuel et des autorités, quoi. Au chapitre 15, Saül va refuser de tuer les Amalécites lors de la guerre. Et les Amalécites, ça va représenter les ennemis qui vont se battre contre la petitesse. Donc refuser de tuer les Amalécites, ça veut dire ne pas prendre en compte les personnes fragiles, en fait. Les personnes, imaginons quelqu'un qui déteste qu'on se moque d'elle, et puis on va faire exprès de se moquer de la personne, devant tout le monde. Alors que c'est une personne, sa faiblesse, c'est que ça la met vraiment mal quand on se moque d'elle. C'est ça que fait Saül. Lorsque Samuel lui dit « Le Seigneur t'a retiré la royauté », il s'accroche à son trône. Son fils Jonathan, il va autoriser David à quitter le palais, il ne va pas consulter son père, et ça va mettre... Alors donc Jonathan va oublier de respecter le soleil, si j'ose dire, qui est son père, et quand son père va l'apprendre, il va se mettre dans une fureur noire, il va dire des paroles très négatives contre son fils, ce qui veut dire qu'il va maudire son fils, il va faire advenir des malheurs à son fils, parce qu'il va avoir des paroles très mauvaises, énervées contre son fils, en fait, au lieu de dire « je lui pardonne et je préfère que la bénédiction descende sur ma famille ». À cause de sa colère contre David, Saül va ordonner le massacre des prêtres de Nov, il va faire massacrer des prêtres, et il va même consulter une nécromancienne, c'est-à-dire c'est le péché absolu en fait. Quand c'est le roi qui le fait, en plus ça donne un exemple terrible pour le peuple. Voilà, on voit que ce problème d'ajustement de Saül par rapport aux règles du soleil et de la lune entraîne de la désobéissance, de la colère, des persécutions, des massacres de prêtres, des péchés graves, de la divination faite par le roi, et avec le mauvais exemple que cela donne à tous. Voilà, cet exemple biblique montre un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Petit 3, le soleil s'obscurcit. Alors, on va voir différents désordres dans notre rapport au soleil et à la lune. Et en fait, ce qui va nous aider, c'est que les deux règles du soleil et de la lune demeurent. Femmes, soyez soumises à vos maris, maris, aimez vos femmes. Et qu'il y a toujours une fécondité très grande à l'appliquer, même si le soleil au-dessus de nous s'est obscurci, parce qu'on a un chef complètement timbré. Alors, il y a l'autorité des pères aujourd'hui qui est très mise à mal, puisqu'on a tendance à laisser l'enfant décider et lui demander pour tout, alors que le père et la mère, normalement, devraient fixer un certain nombre de choses et laisser le choix à l'enfant pour des choses en fonction de son âge et de ses dispositions. Parce que le père, normalement, il incarne une position ferme et assurée. L'honneur que le soleil doit à Dieu est bafoué. On va arrêter les compliments à soi, on va oublier de répercuter les compliments sur d'autres personnes. Donc la lumière de Dieu ne va plus passer. Le soleil aujourd'hui va être adoré, comme Pharaon. Ça va être le cas de, par exemple, les sectes comme les francs-maçons ou d'autres qui sont des adorateurs du soleil, en fait. C'est un humanisme athée, en fait, c'est une construction sans Dieu. Et l'antéchrist, en fait, va être à la fois quelqu'un qui va parler d'amour et qui ne va pas parler de Jésus, en fait. Un des pièges et un des moyens de le reconnaître, parce que ça sera un adorateur du soleil, c'est qu'il sera dans les choses cosmiques en disant on va mettre le soleil au premier plan et la lune, en rabaissant, je dirais, le rôle du soleil et de la lune à quelque chose de très matériel et pour être bien physiquement, etc. Vous voyez ? Ça, c'est l'adoration du soleil qu'on connaît à notre époque et qu'on connaîtra encore plus avec l'apparition de l'Antéchrist. Les cycles journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels ne sont presque plus connus. On devient des générations affaiblies, et paradoxalement, parce qu'on ne marque pas, en fait, la simple prière de dire « Seigneur, je déclare que pour la période qui vient, tu vas me bénir et tu vas me pardonner. » Et paradoxalement, en fait, ceux qui connaissent le mieux toutes ces choses-là, c'est les gens qui font de l'occultisme, les sorciers, etc. Et aujourd'hui, c'est même grâce à eux qu'on redécouvre ces aspects-là. C'est des sorciers qui se convertissent et qui disent « Voilà comment ça marche, voilà comment on s'y prend pour attaquer une personne. » Et pour lui piquer ses grâces, parce qu'elle n'est pas défendue. Il y a l'influence de ceux qui ne se tournent pas vers Dieu, ou du moins vers la vérité. Tous les soleils qui jouent mal leur rôle, et qui vont déstabiliser peu à peu le corps âme esprit des gens sur qui ils ont une influence, qui vont défavoriser les anges, qui vont favoriser les démons, parce qu'ils vont être dans une certaine impureté, ou voilà, qui vont affaiblir leur groupe. Le soleil va donner des règles qui perturbent et qui découragent. Dans les entreprises, les enfants à qui on demande, enfin dans les entreprises, oui, ou les enfants à qui on demande trop leur avis, enfin, c'est des règles qui vont changer tout le temps aussi. Un chef du gouvernement qui va faire des guerres et rumeurs de guerre. On avait parlé des montagnes qui dansent, c'est-à-dire c'est des règles qui changent tout le temps. Le soleil va avoir tendance à demander à ses sujets des choses secondaires. Ça va être la difficulté à appliquer les règles. Et c'est vrai que la force chrétienne, ça va être de dire « j'obéis, le soleil il veut que je le consulte à chaque fois que je change de page dans mon rapport Word, et je vais le voir à chaque fois que je change de page, si c'est lui, c'est ça qui lui fait plaisir en fait. » Et en fait, ça rétablit la lumière. La lune va avoir une force pour rétablir la lumière là où le soleil est défectueux et défaillant. Le soleil n'a plus de chaleur, il n'a plus d'ardeur à transmettre, ni d'ardeur à réparer. Il est un peu sans vie, quoi. Les motivations de beaucoup à exercer leurs responsabilités, ça va être plutôt pour eux-mêmes, et ça va se sentir dans le manque de chaleur qu'il va y avoir. La brûlure du soleil aussi qui va manquer, C'est-à-dire qu'on ne punit plus comme il faudrait. En fait, on va avoir du mal à hiérarchiser les délits, à dire ça c'est grave, je punis, et ça c'est pas grave, je vais laisser tomber parce qu'il faut quand même que je montre un visage d'amour. On va avoir du mal aussi à voir le discernement des phases d'une mission. On est à peine arrivé qu'on veut changer, on veut changer tout alors qu'on est dans notre installation, dans notre mission, on est encore rouge, si j'ose dire. C'est le côté arriviste en fait qu'on va trouver beaucoup. On va pas forcément agir le midi, on va s'enivrer, on va profiter d'être beau et fort pour faire des choses qui sont pas les bonnes, alors que c'est le moment d'agir. Ça c'est le moment où le soleil est tout en haut. Et puis le moment du coucher, on va pas forcément faire attention à la mort, aux derniers instants de la vie. Il y a des moments vraiment clés qu'il faut pas rater en fait. Il y a le fait aussi que le soleil s'expose trop, parce qu'il ne sait pas s'appuyer sur la lune. Il va parfois entrer en dialogue avec des gens. Par exemple, j'avais dans mon entreprise souvent le directeur s'appuyait sur le responsable des ressources humaines, sur le directeur, le DRH. Et moi, je trouve que c'est un bon exemple du soleil et de la lune. C'est-à-dire que pour les sujets trop conflictuels, il laisse le DRH aller au front. Et un président de la République, s'il fait bien son boulot, il laisse le Premier ministre, se faire taper dessus par les médias quand il y a des décisions difficiles à faire adopter. En fait, c'est pas à lui d'aller au front. Lui, il est plutôt là pour montrer la règle. Et puis conforter son ministre, mais pas pour aller au front, en fait. Il doit s'appuyer sur la lune. Petit 4, la lune est couleur de sang. La société a traversé une très longue période où la femme était écrasée par une société machiste, il faut bien le reconnaître. Et aujourd'hui, il y a le féminisme, en fait, qui cherche à rétablir, à redonner ses couleurs à la féminité. Mais le problème du féminisme, c'est qu'il y a aussi des dérives en fait dans le féminisme, de vouloir aller trop loin en disant en somme, puisque le soleil et la lune ont la même taille, vu depuis la Terre, eh bien la lune brille autant que le soleil. En fait, quand on dit il faut qu'ils aient le même rôle, c'est comme si on disait mais si, la lune brille autant que le soleil. Alors on va confondre l'égalité de dignité de l'homme et de la femme avec leur égalité, parce qu'on les déclare interchangeables. Les hommes et les femmes sont différents, l'exact contraire d'égalité, nous ne sommes pas tous pareils, et ne pas le reconnaître, c'est une source d'une souffrance réelle, comme à chaque fois que l'on nie la vérité. C'est une femme qui écrit ça, s'appelle Cosenza Miriano, une italienne, qui a écrit ça il y a à peu près il y a une petite vingtaine d'années. Et Cosenza Miriano, elle a écrit deux livres, une qui s'appelle « Marie-toi et sois soumise », titre très provocateur, et l'autre c'est « Épouse-la et meurs pour elle ». C'est deux livres sur les rôles de l'homme et de la femme, et elle en parle avec beaucoup de vigueur et beaucoup d'humour, et elle dit pas mal de choses, notamment sur les effets du féminisme, enfin des mauvais côtés du féminisme d'aujourd'hui. Elle dit une très grande partie des films et des livres contemporains sont bien tristes. Ils sont une complainte sur le rien, une ennuyeuse tautologie, une démonstration selon laquelle en obéissant à son égoïsme, on va mal. On est inquiet et on n'est jamais rassasié. La lune est couleur de sang. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Pourquoi la lune est couleur de sang? Puisque on va donner une image désastreuse du soleil quand on a une langue qui répercute les mauvais aspects du soleil ou de la terre. On va critiquer notre chef, critiquer le président, on offense Dieu directement. Alors que le rôle de la lune, normalement, est d'intercéder pour ses enfants auprès du soleil. Donc ça veut dire que la lune, la mère, c'est important qu'elle donne au soleil une bonne image, ou alors qu'elle parle des problèmes mais d'une manière apaisée pour réfléchir avec le soleil. La lune va s'user et se fatiguer à employer la force alors que c'est pas son domaine de compétence, et en ne soutenant pas le responsable ou son mari, elle va l'empêcher de porter du fruit dans sa mission. En fait, le vrai problème, plus que le soleil, c'est la lune. Quand la lune refuse de se réduire, en fait, le soleil va décliner, va devenir obscur. La lune va souffrir de ne pas être entendue par le soleil parce qu'elle n'a plus connaissance de l'attitude nécessaire pour négocier et pour ranger le soleil à son avis. Le fait de parler peu, de montrer de l'obéissance, de chercher à faire plaisir, ça va faire que le jour où elle va demander une chose, normalement le soleil va dire oui tout de suite en fait. C'est jamais un problème en fait normalement d'être la lune, puisque le soleil va être de notre avis et c'est lui qui va dire maintenant c'est comme ça. La lune aujourd'hui ne se sent pas belle. C'est-à-dire que comme la lune, c'est celle qui ramène à son cœur pour embrasser dans son cœur ses enfants ou embrasser le monde autour d'elle, eh bien, si elle ne se sent pas belle, qu'est-ce qu'elle va voir à l'intérieur de son cœur? Elle va voir de l'obscurité et elle ne va plus sentir le regard de Dieu sur elle. Elle va se dire « je suis nulle, je suis moche, je suis grosse, je suis je sais pas quoi, je suis pas aimée ». Et en fait, elle va broyer du noir, elle va avoir du mal à être positive et à ne pas critiquer et à jouer son rôle de lune, en fait. Il y a aussi le fait, la lune, normalement, c'est celle qui est sobre et pure et qui ne parle pas trop. Et aujourd'hui, des femmes qui vont être dans une obscénité de la parole vont avoir une capacité très grande à faire tomber beaucoup d'hommes ou quelqu'un qui dit des grossièretés dans une entreprise. Et c'est vrai que souvent, la présence d'une femme, là on retrouve la femme, en plus d'être une salariée, va bloquer beaucoup de conversations obscènes, en fait. Je remarque, moi, que quand il y a une mixité dans les entreprises, et même dans les familles, dans les fratries, c'est une grande source de fécondité, parce que la femme, elle va bloquer plein de choses mauvaises. Donc, la lune croit que se donner, c'est être perdante. On a l'impression que le féminisme, c'est d'être masculin, en fait. Donc on va perdre une fécondité de la lune, alors qu'en fait, c'est en étant mère, en étant fécond, en se donnant, en enfantant les autres, en fait, des enfants ou des gens autour, que la lune, elle va rayonner. Ou enfanter dans son travail pour des gens qui n'ont pas d'enfants. Il y a le mépris pour le cycle physique qui va détraquer la lune, en fait. Donc là, je parle de la femme. Ça va la détraquer d'un point de vue spirituel, au niveau de sa capacité prophétique, de son intuition, en fait. La femme, normalement, elle a une intuition considérable, et le fait de trop se bloquer au niveau de son cycle et de normer son cycle avec des moyens trop corrosifs, si j'ose dire, elle va perdre une partie de sa dimension prophétique. Elle devient masculine, en fait. Nos sociétés font devenir les femmes comme des hommes. Donc, du coup, elle ne veut plus être changeante. Alors que ce qui fait la beauté de la lune, c'est d'être changeante, en fait. Voilà pour la lune. 5, le soleil et la lune élevés. Ça va être, à notre époque, je pense, l'avertissement. C'est-à-dire que ça va être un moment où tous ceux qui auront essayé de vivre de manière humble, hommes et femmes, humbles, vont un moment resplendir avec le Christ pour visiter... Pendant ces 20 minutes à peu près où le monde, c'est l'avertissement, c'est ça, c'est 20 minutes pendant lesquelles le monde s'arrête et Dieu vient montrer à chacun, avec le cortège d'élus, de gens qui sont encore vivants et qui sont en état de grâce, va montrer la beauté de la vie à tous ceux qui se rendent compte de leurs difficultés. En fait, le cœur de tout le monde va être visité par Dieu. Et ça, ça va être un moment très grand, je pense, à notre époque, où le soleil et la lune vont être élevés. Il va y avoir des signes dans le soleil et la lune. Il y a le miracle du soleil qu'on a vu avec la Vierge Marie qui est apparue et 70 000 personnes ont vu la danse du soleil. Je pourrais en dire beaucoup. Il y a beaucoup de passages bibliques qui parlent de la lune qui brille 7 fois plus comme le soleil et le soleil aussi qui a une clarté immense. C'est tous ceux qui jouent leur rôle de soleil et lune et qui retrouvent leur dimension féminine ou masculine ou leur rôle à tout moment comme soleil et lune. Je vais m'arrêter là, en concluant sur une petite phrase, c'est encore une citation. Notre roi est sur la croix, mais c'est ainsi qu'il a vécu le seul ennemi invincible, la mort. Voilà, merci pour votre attention.